Bien, bah, bienvenue, merci d'être venu. On va donc reparler ce soir de cette période qu'on a déjà moulinée au cours de deux, trois séances, qui est la période de l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà évoqué cette période à partir de la problématique générale qui traverse ce cycle, qui est celle de la question sociale, et on a vu que cette période-là était marquée par un processus discontinu d'affiliation sociale. Discontinu parce qu'en fait, on a fait deux séances séparées, l'une sur la première phase de cette période d'après-guerre, en gros de 1945 jusqu'au milieu, à la fin des années 70, disons, et une période qui apparaît un peu comme la pente redescendante de cette période-là, la première étant celle de la croissance, celle qu'on appelle de la construction de l'État keynésien fordiste, l'État social keynésien, si vous voulez. On peut lui donner des tas de noms, enfin, ça veut dire qu'il reposait sur un régime de croissance qui a permis de financer les régimes de protection sociale qui ont été mis en place dans l'immédiate après-guerre. Ceci correspondait à un progrès décisif de la condition salariale, puisqu'ils ont largement sorti de la précarité sociale des millions de salariés et que de statut vile qu'il était au début du XXe siècle, le statut salarié a correspondu à autant de droits, de protection, de capacité à se projeter dans l'avenir dès lors qu'un système à peu près complet de sécurité sociale avait pu voir le jour. Et j'avais insisté d'ailleurs la dernière fois sur cette idée que le régime de croissance avait certes pu financer les régimes de retraite, la protection maladie, les allocations familiales, mais que la décision qui avait été prise de le mettre en place était antérieure à ce régime de croissance, c'est-à-dire que pendant la guerre, il a été convenu qu'il s'agissait là bien de droits relativement inaliénables des salariés et que l'économie avait le devoir de se plier à ses besoins sociaux et que le financement n'était pas conditionné par le régime de croissance. Il se trouve que non seulement il y a eu un régime de croissance, mais le système de protection sociale lui-même a participé de l'efficacité du régime de croissance, puisqu'en assurant à tous les salariés une certaine continuité de revenus au-delà de la maladie, de l'accident et même de la vieillesse, il a été un des moteurs de la croissance de ce qu'on a appelé abusivement les 30 glorieuses. Alors les 30 glorieuses, ça signifiait tout simplement le plein emploi, parce que pour le reste, les conditions de travail, les durées de travail et même le niveau des salaires n'étaient tout de même pas si heureux que cela, et ils ont donné lieu à énormément de conflictualités sociales tout au long de cette période. Mais enfin, elle était marquée par cette idée d'un progrès social continu, à condition qu'on s'en occupe un peu, les choses ne tombaient pas du ciel, mais il y avait un mouvement syndical relativement puissant, la population salariée vivait avec cette idée que si les choses iraient mieux, peut-être pour eux, en tout cas assurément pour leurs enfants. Et on sait que cette croyance s'est un peu inversée dans les années 80-90, avec le retournement qui est dû à la crise, mais qui n'est pas simplement une donnée de l'inversion du régime de croissance, c'est aussi une bataille politique, puisque les années qui suivent la décennie 80 sont celles de la montée de la mondialisation, le retour des idées libérales que l'on croyait mortes avec la Seconde Guerre mondiale. Je renvoie toujours au livre de Karl Polanyi de 1944, un économiste passé aux États-Unis, qui vient d'Europe centrale et qui établit le certificat de décès du libéralisme en 1944 et qui explique pourquoi le libéralisme est mort, parce qu'il est destructeur des sociétés et que le marché autorégulateur est un pur fantasme dont la crise de 1929 a bien montré la vanité. Enfin, c'est pas inutile de rappeler ça en ce moment, puisque on est dans une période qui ressemble un petit peu à celle de 1929, bon, avec des différences, mais qui commence à avoir pointé aussi un bilan de cette dérégulation libérale qui a été le propre des années 80 et après, sous l'empire Thatcher-Reagan, mais qui s'est largement étendue avec la bénédiction des pouvoirs politiques en France et ailleurs depuis cette période. Alors, cette vision un peu en deux temps de la période de l'après-guerre, ça recoupe un peu d'ailleurs le rythme du syndicalisme en France, c'est-à-dire on a une période avec un mouvement syndical relativement puissant, et au moment de cette inversion, début des années 80, commence un cycle infernal d'affaiblissement syndical. Bon, vous savez bien que quand on ne sait rien du syndicalisme, on sait encore qu'il est en crise. C'est une porte ouverte qu'on enfonce maintenant depuis 20 ou 30 ans. Enfin, on ne peut pas éviter de parler dans ces termes-là d'un mouvement syndical qui, depuis, n'a cessé de s'affaiblir. Cela étant, la crise n'a pas fait qu'affaiblir, il a aussi amplifié ou élargi des brèches qui existait dans le syndicalisme antérieurement à la crise. Le syndicalisme français présente un certain nombre de faiblesses structurelles. Il n'a pas que des faiblesses, mais on va donc s'attarder là, au cours de ces deux séances, à cette dynamique du mouvement syndical français, en l'encadrant d'une remarque sur laquelle je reviendrai sans doute les fois suivantes, mais on peut en parler, qui est que cet affaiblissement des syndicats français intervient dans un contexte général d'affaiblissement du mouvement syndical, un contexte mondial. Le BIT avait là-dessus, en 1998, fait un long rapport dans lequel il montrait que, dans à peu près tous les pays du monde, il y avait quelques exceptions, mais en tout cas dans tous les pays industrialisés, ou presque, on avait un recul significatif du syndicalisme, soit dans ses formes apparentes, au Japon, aux États-Unis et même en Europe, soit même là où son affaiblissement n'apparaît pas à travers des effondrements de taux de syndicalisation, en tout cas, l'efficacité en termes de production de compromis sociaux, y compris dans les pays nordiques, etc., est plutôt en retrait par rapport à ce qu'il était dans les années 70. Alors, bon, c'est pas une raison pour ne pas analyser les faiblesses spécifiques du syndicalisme français, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la crise syndicale en France, elle est précoce, elle est beaucoup plus radicale, elle se manifeste de manière très visible et très rapide à travers l'effondrement du taux de syndicalisation, mais qu'il s'inscrit, j'insiste, dans une tendance générale à travers le monde, même en Europe, qui a été le berceau de la puissance syndicale. On est dans une ère d'affaiblissement des syndicalismes. Alors donc, on va faire aujourd'hui un épisode, je vais aller vite évidemment, hein, qui est un chapitre de l'histoire de la CGT, ou plus exactement la trajectoire de ce qui constitue la CGT dans l'immédiate après-guerre. Hein, c'est pourquoi on a appelé cette soirée la fragmentation du syndicalisme français. On va plutôt s'arrêter sur ce processus d'émiettement syndical qui commence dès 1946 et qui va déjà induire à l'intérieur du mouvement un certain nombre de failles. Alors, ça, on va parler ce soir de la principale branche du mouvement syndical, celle qui est héritée du mouvement ouvrier du 19e siècle, laïque et d'inspiration socialiste, socialiste au sens générique, hein, au sens de l'émancipation des travailleurs telle qu'on l'a constate à travers la pensée des utopistes français ou du marxisme en fin de 19e siècle, donc socialiste détaché de sa connotation contemporaine. On verra la prochaine fois l'histoire de l'autre branche qui a produit du syndicalisme en France comme dans le reste de l'Europe, qui est le syndicalisme chrétien, le syndicalisme d'origine catholique sociale, qui est une autre matrice historique de production de syndicalisme et qui a connu, en France aussi, un processus de fragmentation progressif. C'est en gros la branche dans laquelle on trouve aujourd'hui la CFTC, la CFDT et les syndicats sud qui en sont aussi extraits. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire issu de la tradition. Hein, ce que ça veut dire, parce que c'est ce qui légitime au fond le regard de l'histoire hein, sur les processus contemporains. Comme dans les idées politiques, il y a des généalogies hein, dans les formes sociales que sont les syndicats. Et quand on dit qu'il y a une généalogie, c'est-à-dire une dynamique historique qui produit, reproduit des acteurs, ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de rupture. L'exemple de la CFDT et des syndicats, de la CFTC et des syndicats sud, par exemple, le montre. On peut difficilement, d'une observation spontanée, trouver naturellement que les syndicats sud et la CFTC, c'est-à-dire un syndicat assez a priori conservateurs, familialistes, etc., trouvent sa même racine historique que les syndicats sud, qui n'ont pas exactement cette image-là. Bon, on comprend mieux, hein, ça veut dire que ces traditions-là sont travaillées par l'histoire, sont travaillées par les processus politiques et sociaux, et donc c'est pas un exercice, reconstituer ces généalogies n'est pas un exercice visant à mettre des syndicats dans des boîtes, hein, qui découlerait d'une tradition. Simplement, c'est une façon de rendre compte d'un processus, et ça permet d'expliquer aussi d'ailleurs la configuration syndicale actuelle et la difficulté qu'elle a, qu'elle aura, parce que la reconfiguration est un petit peu à l'ordre du jour, qu'elle aura à s'organiser parce que justement on retrouve à certains moments le poids des traditions, alors non pas par des attachements à l'histoire mais souvent par des cultures syndicales que la tradition a générées, et que même si elles sont transformées par le mouvement social, il n'en reste pas moins qu'elle demeure. On l'a vu récemment dans l'épisode du rapprochement de l'UNSA et de la CGC, qui appartiennent à des traditions extrêmement différentes, et on voit bien que le processus a buté sur cette caractéristique-là. Donc connaître ces liens historiques, c'est ce qui permet de, de mieux appréhender un contexte que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va s'attaquer à ce processus de fragmentation. Alors d'abord, un petit retour pour ceux qui n'étaient pas là quand on a parlé de l'histoire de la CGT avant la guerre, revenir un petit peu, très vite, sur l'histoire en longue durée. Donc vous savez que la CGT est la première confédération syndicale qui a été créée dans ce pays en 1895. Elle est issue de la fusion entre la Fédération nationale des syndicats qui lui préexistait, c'est-à-dire un ensemble de fédérations professionnelles nationales, Fédération du Livre, les Chemins de Fer, les mécaniciens, etc., enfin, des fédérations nationales qui existaient depuis 1886, et la Fédération nationale des Bourses du Travail, qui est une originalité d'ailleurs un peu française. Les Bourses du Travail, c'est des regroupements locaux de syndicats relevant de professions, de métiers différents. À l'époque, le syndicalisme est assis sur les métiers. Il deviendra plus tard, au début du XXe siècle, adossé ou plutôt aux industries. On parlera de la métallurgie et non plus des mécaniciens, des ajusteurs, etc. Et donc, ça va donner également une configuration un peu particulière à cette CGT d'avant la Première Guerre mondiale, puisque les bourses du travail sont dominées par l'influence anarcho-syndicaliste, et même à l'intérieur de certaines fédérations, va se créer un composé qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, qui est un peu justement un mélange de cultures entre les anarchistes et certains courants socialistes de l'époque, qui était relativement anti-parlementaire ou à dominante, parfois même assez libertaire. Je pense aux partis de Vaillant ou d'Allemagne qui ont été aussi des producteurs importants de ce syndicalisme révolutionnaire. Mais il ne faut pas voir la CGT même à cette époque-là. Ce n'est pas une très grande organisation. Elle a un taux de syndicalisation qui n'est pas très éloigné de ce qu'il est aujourd'hui. Même en 1912, où elle a un petit frémissement à l'approche de la guerre, elle est assez composite, c'est-à-dire qu'il y a des fédérations, des unions départementales qui ont une ligne syndicaliste révolutionnaire, qui prône la grève générale, etc. Mais elle a aussi des composantes réformistes assez importantes, comme la Fédération du Livre ou, après 1910, la Fédération du Chemin de Fer. Bon, on a plusieurs, donc, des traditions déjà qui se mêlent un peu à l'intérieur de cette CGT. Alors, après la Première Guerre mondiale, le courant syndicaliste révolutionnaire va plutôt s'effacer. Et deux autres vont prendre la place, le réformisme un peu recomposé de l'après-guerre, dont le leader est Léon Jouhaud, qui est le secrétaire général de la CGT depuis 1909. Il va le rester très longtemps, puisqu'il est encore là après la Seconde Guerre mondiale. Et puis la tendance communiste, qu'on va appeler communiste maintenant, après la révolution d'octobre, qui émerge effectivement dans le sillage de la révolution soviétique. Alors, il y a une scission qui va affecter la CGT en 1921, en grande partie sur ce clivage réformiste-révolutionnaire. La CGT est à dominante réformiste, et la direction de la CGT exclut les comités syndicalistes révolutionnaires qui s'étaient constitués pendant les grandes grèves de 1919 et 1920, et les gens exclus vont composer une nouvelle organisation qui va prendre le nom de CGTU, CGT unitaire. J'avais dit d'ailleurs, c'est une récurrence historique que les exclus, en général, prennent toujours à leur compte dans leur sigle le mot unitaire, pour bien marquer que ce n'est pas eux qu'on choisit d'être mis dehors. Et la CGTU est au départ un composé de ces communistes, ces nouveaux communistes, souvent d'anciens syndicalistes révolutionnaires d'ailleurs, et des syndicalistes révolutionnaires qui maintiennent un peu cette tradition. Ils vont quitter la CGTU plus tard, dans la phase qu'on appellera de bolchévisation du Parti communiste français, où là, l'idée de cohabiter avec d'autres courants dans la même organisation était difficilement envisageable. Donc, certains à cette époque vont créer une petite CGT syndicaliste révolutionnaire en 1926, qui ne va pas s'étendre beaucoup. D'autres, et notamment un groupe, la Ligue syndicaliste, va rejoindre la CGT. Donc, voilà, ils vont quitter, conduits par Pierre Monnat, enfin, les grandes figures du syndicalisme révolutionnaire, ils vont revenir dans la CGT de Léon Jouhaud pour créer la tendance qui s'appelle la révolution prolétarienne. J'en reparlerai plus tard parce qu'elle perdure au-delà de la guerre de 39-45. Alors, au moment du Front populaire, ces deux CGT qui ont vécu ensemble en s'opposant très vivement tout au long des années 20 et 30 vont fusionner et recréer la grande CGT. Avec la crise des années 30, il y a eu un petit regain de syndicalisation, mais globalement, les deux organisations arrivaient en piètre état à l'aube du Front populaire, et c'est la dynamique autour du Rassemblement populaire qui va redynamiser le mouvement syndical, et on va assister à l'occasion des grandes grèves de juin 1936 à une resyndicalisation massive et à l'entrée dans le syndicalisme des jeunes ouvriers masse, ce qu'on appelle les ce qu'on appellera plus tard hein, l'ouvrier masse, c'est-à-dire les ouvriers non qualifiés de la production qui commencent à être taylorisés en France. Hein, la division du travail de Taylor met du temps en France à pénétrer l'industrie, c'est le fait de l'entre-deux-guerres. Et on a une masse de jeunes, souvent, qui n'étaient pas syndiqués jusque-là. Les syndicats, que ce soit la CGTU ou la CGT, syndiquent plutôt les ouvriers les plus qualifiés. C'est d'ailleurs le propre, je l'ai dit déjà, que le mouvement syndical n'est pas, contrairement à ce que des approches moralisantes font parfois, le syndicalisme n'est pas la production des gens les plus défavorisés. Le syndicalisme a toujours été historiquement la production de gens qui avaient déjà des choses à défendre. On entend souvent les gens dire ah, c'est un commun du comptoir du café du commerce hein, qui est de oui, mais eux ils se plaignent alors qu'ils ont déjà, etc., et qu'il y en a tant d'autres qui n'ont rien et qui n'ont même pas de syndicat. Et c'est vrai. Et c'est vrai que historiquement, les syndicats ont été produits par les gens qui avaient déjà des qualifications à défendre parce que eux ils avaient une capacité de la négocier avec l'employeur, alors que l'ouvrier déqualifié, lui, n'a pas beaucoup de choses à négocier. Et on voit bien autour de 1936 ce qui se passe lorsque cette masse de travailleurs non qualifiés va rentrer dans la CGT. C'est un assemblage qui se crée, un assemblage au sens presque œnologique du terme. C'est-à-dire que ça va se mélanger dans la CGT et on va avoir, ou si vous voulez, d'une certaine manière, les ouvriers qualifiés apportent la qualification et la capacité à négocier et les ouvriers déqualifiés apportent le nombre. Et dans l'industrie de masse, c'est la composition du norme, du nombre et de la compétence qui crée des rapports de force. Et c'est dans cette agrégation qui se produit autour de 1936 que le syndicalisme français, la CGT en tout cas, devient une organisation de masse. Elle ne va pas le rester longtemps. Ce n'est pas une tradition très enracinée, celle du syndicalisme de masse en France. Et là, on a une petite période où la CGT, réunifiée, va animer le mouvement, cette grève, hein, tenter d'animer, bah, elle va surfer, disons, plus exactement, sur la vague de juin 1936, qui ne va pas beaucoup durer, on en a parlé dans une séance, puisque le Front populaire s'inverse un peu après 1938, après la grève échouée de novembre 1938, et là, on s'achemine vers la guerre, avec d'ailleurs une nouvelle scission de la CGT, juste avant la guerre, là, une scission sur des motifs extrêmement politiques, mais après tout, la fusion de 1936 s'est faite aussi pour des raisons extrêmement politiques, en l'occurrence, la peur de la montée du fascisme, donc on a des facteurs politiques qui sont toujours présents dans la morphologie du champ syndical. Là, on a une scission, enfin l'éjection des communistes de la CGT parce qu'ils ont refusé de désavouer le pacte germano-soviétique. Donc un accord entre deux grandes puissances, l'Union soviétique et l'Allemagne, en 1939. Et en France, ça se traduit par l'exclusion d'ailleurs des députés communistes de l'Assemblée nationale. Et dans le champ syndical, on demande aux dirigeants communistes de désavouer le pacte germano-soviétique, et ceux qui refuseront de le faire, eh bien, seront exclus de la CGT. Donc, on arrive dans la guerre avec la dissolution des confédérations syndicales, on a fait une séance sur cette période-là, et une CGT qui est déjà partagée en deux, avec une qui est déjà clandestine de fait, puisque les militants communistes exclus de la CGT n'ont pas d'autre choix que de retisser leurs liens entre eux dans la clandestinité, et un syndicalisme CGT qu'on appelle des confédérés. Il faut se retenir cette définition. D'ailleurs, la tendance communiste, on les appelle les unitaires, parce qu'ils viennent de la CGTU, de la CGT unitaire. Et les autres, ma foi, c'est la tradition du syndicalisme confédéré français. Donc on parlera des confédérés et des unitaires, pour ne pas dire les réformistes et les communistes. C'est souvent une façon de ne pas appeler un chat que de leur trouver, mais... Bon, les unitaires, c'était pas toujours que des communistes. Et les confédérés, si c'était quand même pratiquement toujours des réformistes. Mais enfin, il y avait diverses qualités de réformistes aussi à l'intérieur de la CGT. Mais avec un changement quand même significatif, c'est que... On verra ça à la Libération. Donc la CGT rentre dans la résistance. Vous savez, je l'ai dit, il y a une partie de la CGT qui va à Vichy, qui est derrière Belin, notamment, le ministre du Travail du Maréchal, qui essaye vainement de mettre en place sa charte du travail. Il vient de la CGT. Il a été un dirigeant de la CGT avant-guerre, proche de Léon Jouot. Et il ira se perdre avec quelques autres dans la participation à quelques gouvernements du maréchal Pétain, avant de se faire mettre dehors, d'ailleurs, en 1942. Donc la CGT va se réunifier dans la résistance. Alors c'est une réunification un petit peu symbolique, parce que, bon... L'action du syndicat dans une période comme celle-là, c'est évidemment pas la même qu'en temps de paix. Donc qu'on a. Mais enfin, ça avait un sens, cette réunification clandestine. Elle a joué un rôle important, d'ailleurs, dans la composition du Conseil national de la résistance, et la CGT va jouer un rôle important dans le Conseil national de la résistance. Elle va même participer à l'élaboration de son programme, et la CGT fait inscrire dans le programme du CNR notamment les nationalisations, notamment le projet d'un système complet de sécurité sociale qui avait été son objectif dans l'entre-deux-guerres, mais qu'elle n'avait pas réussi à faire advenir. Alors, à la libération, du coup, la CGT est très impliquée dans le programme, et du coup dans sa mise en œuvre par le gouvernement tripartite issu des forces de la résistance. Elle est partie prenante de son programme puisqu'elle a contribué à son écriture, et du coup elle va avoir tendance à coller, à être embarquée, on dirait embedded, hein, dans l'action gouvernementale de l'époque. Et elle reprend son activité légale donc dès août 1944, et elle va s'impliquer dans la mise en place, et notamment dans la reconstruction. Et la première position que va prendre la CGT, les unitaires en tête, ça va être ce qu'on appelle la bataille de la production, c'est-à-dire elle va engager les travailleurs à relever les manches et à gagner la bataille de la production. Hein, c'est l'époque où on entend dire « la grève, c'est l'arme des trusts ». Hein, c'est ceux qui veulent saboter la reconstruction de la France. Rien ne se fera si la production ne repart pas. Et donc, la CGT s'engage vivement là-dedans. Elle bénéficie d'un afflux, enfin, ce que Antoine Prot a appelé une ruée vers le syndicat, puisqu'elle va connaître un afflux extraordinaire d'adhérents. Elle en affiche 5,5 millions. Bon, elle en a un peu moins. On a refait les comptes, ils sont 3,8 millions. Alors, c'est pas 5,5 millions, mais enfin, ça fait rêver quand même. Hein. 3 800 000 syndiqués, c'est quand même pas mal. Alors, elle est unifiée, évidemment, puisqu'elle ressort de la guerre dans l'unité, mais avec des rapports de force internes tout à fait modifiés. Parce qu'avant-guerre, au moment de la fusion en 1936, on considérait que les réformistes étaient majoritaires. C'était un peu moins vrai, d'ailleurs, après la grève de 1936, parce que les ouvriers non qualifiés dont je parlais tout à l'heure, ils ont d'abord adhéré dans les fédérations industrielles, notamment la métallurgie, qui était contrôlée par les unitaires. Donc, de fait, déjà à l'entrée de la guerre, les unitaires sont plus en position d'avantage de force, mais alors en 1945, c'est massif. Le Parti communiste en France compte jusqu'à 800 000 adhérents en 1946. Hein, il est à son sommet. Et il fait 26% aux élections. Donc c'est un parti de masse. Et les cégétistes communistes sont portés par le mouvement. Ils ont joué un grand rôle d'ailleurs dans la résistance. Ils sont auréolés de ce prestige-là, et aussi de celui de l'URSS, parce qu'aujourd'hui ça fait drôle, mais à l'époque, l'URSS a un grand prestige. Donc le Parti communiste est plutôt valorisé, même de son rapport privilégié avec l'Union soviétique. Donc les communistes sont majoritaires et largement à l'intérieur de la CGT, ce qui pose des problèmes dès septembre 1944, donc un mois à peine après la légalisation, relégalisation de la CGT, les unitaires font reparaître la vie ouvrière, qui est leur organe de tendance. Et les confédérés, de leur côté, publient le mois suivant Résistance ouvrière, qui est un petit journal assez peu diffusé par rapport à l'AVO, mais qui traduit, enfin c'est le nom de cette tendance qu'ils avaient fait pendant la guerre. Et plus tard d'ailleurs, Résistance ouvrière, dès la fin de la guerre, puisque là on est encore en 1944, mais dès après août 1945, enfin, quand la guerre est vraiment terminée, Résistance ouvrière va changer de nom et va s'appeler Force ouvrière, qui est un journal de tendance donc de la CGT à cette époque-là. Donc les unitaires sont en position de force et on le voit lors du congrès, le premier congrès de la CGT en avril 1946, les confédérés sont très minoritaires, ils détiennent à peu près 20% des mandats. Les unitaires contrôlent 23 des 40 fédérations en gros de la CGT et 65 UD, unions départementales, sur les 90 qui composent la CGT. Donc disons que l'organisation est tenue, mais malgré tout, on fait comme s'il y avait une certaine parité dans la construction des instances du bureau confédéral, qui est l'organe le plus élevé de la confédération. On garde une parité hein, entre les dirigeants confédérés, d'origine confédérée, et les unitaires. Donc il y a deux secrétaires généraux, Benoît Frachon, qui représente les unitaires, et Léon Jouhaud, qui revient de captivité en fin 1945 et qui reprend sa place à la tête de la CGT. C'est le moment aussi où, lorsqu'ils constatent leur extrême minorité, les syndicalistes révolutionnaires, du moins une partie d'entre eux, vont quitter la CGT pour créer la CNT, la Confédération Nationale du Travail, de tendance anarcho-syndicaliste, hein, qui existe toujours aujourd'hui. Vous avez pu les voir aux dernières manifs, ils ont une banderole à la fin. C'est une organisation minoritaire qui a connu d'ailleurs quelques crises récemment. Ils ont connu une scission il y a une douzaine d'années. Mais bon, qui existe dans certains secteurs et qui continue à entretenir cette tradition, qui d'ailleurs puise davantage dans la CNT espagnole que dans la tradition anarcho-syndicaliste française. Ils affichent une proximité forte avec les idées de la CNT de Catalogne, notamment, qui, elle, était un grand syndicat avant la guerre d'Espagne, qui a gardé d'ailleurs une tradition en Catalogne. Donc, développement à cette période, les communistes sont majoritaires dans l'appareil de la CGT, et ils développent cette ligne de bataille de la production. Alors, les confédérés sont moins enthousiastes sur la bataille de la production, mais ils ne s'y opposent pas. Après tout, ça contribue au redémarrage économique du pays. Il n'y a pas énormément de grèves jusqu'en 1946. Enfin, l'année 1945, il y a quelques conflits, mais pas beaucoup, à part dans la région lyonnaise, mais autrement, les gens bossent, quoi. Bon, enfin, ça dure pas très longtemps. Enfin, ils bosseront longtemps, mais pas sans réaction. Et à partir de 1946, on va commencer à voir monter un certain nombre de conflits. Et la CGT va être un petit peu prise à contre-pied avec l'exemple fameux de la grève des postes des PTT en 1946, où une grève se déclenche en juillet 1946. La fédération postale, à l'époque, est dominée par les unitaires, donc l'appareil est tenu par les communistes, et malgré ça, la grève prend une certaine ampleur. Il y a même une grève générale qui est déclenchée le 30 juillet, avec un comité de grève qui gère la grève, et combattu par la fédération postale. Et du coup, bon, ils vont obtenir satisfaction, d'ailleurs, quelques jours après, et il y a une scission qui se crée, et va se créer une fédération syndicaliste des PTT autonome, qui quitte la CGT. Et cet exemple va faire des petits, c'est-à-dire qu'à la SNCF, dans la début 1947, quelques mois après, on va avoir le même scénario, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit, que la fédération des cheminots, qui est à majorité unitaire, va combattre, parce que la CGT est encore, enfin la tendance unitaire est encore dans la logique de la bataille de la production, et il va se créer une fédération autonome des chemins de fer début 1947, même chose dans le métro parisien début février de l'année 1947. Donc on a vraiment un mouvement de grève qui commence à monter dans les banques, dans la presse, etc., chez les rotativistes. Il y a des conflits importants et qui sont liés à l'état misérable de l'économie. Les salaires sont très bas par rapport au prix. Il y a encore les restrictions. Les conditions de travail sont extrêmement pénibles. Les temps de travail sont très longs, etc. Donc il y a des conflits, ce qui est assez classique dans ce genre de... période, et du coup la tendance unitaire est très tiraillée entre d'une part sa solidarité gouvernementale, les communistes sont au gouvernement dans cette première phase de la libération, de l'après-guerre, et ils sont tiraillés aussi parce qu'il y a une montée des luttes sociales et qu'ils supportent assez mal d'être dans cette espèce de position d'interface. Ça va se décanter avec la grève de chez Renault qui part le 25 avril 1947, c'est une grève qui a été montée à l'initiative des trotskistes, qui sont assez présents, c'est la tendance voie ouvrière, enfin c'est les ancêtres de lutte ouvrière, les bartistes, on les appelle, du nom de Barta, qui était un ouvrier roumain venu en France, et qui a cristallisé un peu ces mouvements-là. Donc les unitaires sont majoritaires évidemment sur Renault, ça restera toujours la vitrine des unitaires pendant très longtemps, ils restent muets pendant 4-5 jours, ils voient ce conflit se développer, et puis après ils vont tenter d'en prendre la tête, la direction, puisque le mouvement est très enraciné au-delà c'est pas une manœuvre bureaucratique des trotskistes, c'est un vrai mouvement qui avait besoin de porte-parole, et il se trouve que c'est eux qui ont saisi ce moment, là où habituellement les communistes sont plus prompts à le faire. Et là, après avoir été sans doute très déchirés pendant quelques jours, ils vont prendre la tête du mouvement, et du coup... Donc on voit, on est le 29 avril, le 4 mai, les communistes sont exclus du gouvernement, parce qu'on leur demande de désavouer le conflit Renault, et les ministres communistes qui sont au gouvernement refusent de le faire, et donc ils se retrouvent à l'extérieur. Donc la grève va d'ailleurs devenir un conflit un peu phare dans le pays, et le Parti communiste, exclu du gouvernement le 4 mai 1947, va aussitôt prendre la tête d'un grand nombre de conflits qui vont se déclencher aux endroits où la CGT, et notamment les unitaires, sont forts, comme à la SNCF, à EDF, GDF, dans les mines, et aussi à l'époque dans les banques, il va y avoir un mouvement social d'ampleur. Alors, La CGT doit débattre, d'ailleurs, à son Conseil confédéral national de novembre de cette situation, à la fois la situation sociale. Il y a une pression énorme pour l'augmentation des salaires, du minimum vital. Hein, on est dans une situation difficile. Et en même temps, il y a un autre débat qui va s'inviter au CCN de la CGT. C'est la réaction au plan Marshall qui est annoncé le 5 juin 1947. Général Marshall, hein, qui est ministre dans l'administration Truman, et qui propose ce qu'on a appelé le plan de reconstruction de l'Europe, hein, donc la contribution américaine à la reconstruction économique en Europe. Et ce plan va cliver l'opinion publique en France et dans quelques autres pays d'Europe entre les partisans du plan Marshall, de l'aide américaine à la reconstruction de l'Europe, et ceux qui s'y opposent. Alors, le plan est accueilli avec un enthousiasme assez modéré par les confédérés, par les partisans de Léon Jouot, qui le voient avec d'un bon œil, mais enfin qui mettent des conditions. Il y a une certaine inquiétude sur l'indépendance, hein, de la France par rapport à ce plan Marshall. Donc, il laisse craindre, hein, une immixtion des États-Unis dans les affaires de l'Europe. Et les unitaires sont extrêmement méfiants à l'égard de ce plan. Ils le rejettent. L'Union soviétique va rejeter le plan Marshall dans le courant août 1947. Et les communistes restent assez prudents quand même pendant une certaine période. Et c'est à partir de septembre 1947 que les choses vont basculer. C'est d'ailleurs moins de l'annonce du plan Marshall que de septembre 1947 que les historiens datent l'entrée véritablement dans la période de guerre froide. Pourquoi septembre 1947? Parce que c'est là que va se tenir à ce moment-là la conférence de Śląska Poręba en Pologne. C'est une conférence des partis communistes qui a été convoquée par le Parti communiste d'Union soviétique, et notamment Dimitrov, qui est le leader idéologique, hein, à cette époque-là des relations dans le monde communiste, et qui va un peu remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de tous les partis communistes occidentaux, notamment, qui participaient jusque-là à des alliances gouvernementales, comme c'était le cas du Parti communiste français, où, bon, ce n'est pas exactement le cas des communistes italiens, mais ils étaient dans une attitude relativement bienveillante vis-à-vis de leur gouvernement à cette époque-là. Et la conférence, donc, c'est celle qui va refonder, enfin, qui va fonder le Cominform, hein, c'est-à-dire la coordination des partis communistes, alors que Staline avait éteint le Comintern pendant la guerre, en 1943, donc il est reconstitué sous une forme un peu plus souple que le Comintern, mais enfin, c'est à cette conférence qu'il va y avoir un véritable raidissement, où d'ailleurs certains partis communistes, notamment le PC français, va faire son autocritique, hein, sur son excessive attitude conciliante vis-à-vis des partis socialistes, vis-à-vis de leur bourgeoisie nationale. Donc là, on va rentrer dans une période de raidissement des partis communistes, et aussi déguisement de la guerre froide qui va être liée au lancement de la guerre de Corée. Donc là, c'est une tension internationale. Et donc le partage du monde, les blocs, etc., je n'insiste pas, on en a un petit peu parlé. Mais ça a une incidence extrêmement forte à l'intérieur des syndicats, pas seulement en France, mais surtout en France et en Italie, puis dans le syndicalisme international, qui s'est reconstitué sur des bases unitaires aussi en 1945. Et donc le CCN de la CGT de novembre 1947 va traiter des deux questions, que sont le mouvement des grèves en France et l'attitude à avoir face au plan Marshall. Et là, évidemment, il y a deux camps qui se dessinent, puisque les deux votes qui vont avoir lieu sont assez proches. Il y en a assez peu qui vont voter d'un côté et échanger de côté dans le deuxième vote. Et on va voir se dessiner deux camps. L'un qui va dénoncer le plan Marshall et appeler aux grèves de novembre, qui doivent être lancées par la CGT en novembre-décembre, et l'autre qui va refuser ce mouvement de grève, et qui va refuser de condamner le plan Marshall. Donc, on a, à la fin de ce CCN, en gros, les gens de la tendance force ouvrière vont quitter le CCN, se réunir avec leur base, qui va les pousser, parce qu'eux sont assez réticents, à organiser une scission. Hein. Alors, le vote au CCN, c'est 85% pour la position des unitaires, et 15% pour la position des tenants de force ouvrière, de la tendance force ouvrière. Donc, vous voyez qu'ils sont... Ils font le constat, hein, que plus rien n'est possible dans une organisation où ils sont à ce point minoritaires, d'autant que les communistes qui ont le vent en poupe à cette époque-là font pas toujours dans le détail, hein, dans le traitement des divergences internes, ils sont pas toujours d'une infinie délicatesse. Donc les conditions de la survie ensemble dans la même organisation alors que deux lignes la partagent deviennent de plus en plus difficiles à assumer, et donc les dirigeants du groupe FO décident de partir. Et la CGTFO, parce qu'elle reprend le sigle, va se créer en avril 1948. Alors, mais Bon, c'est ça qui reste de l'histoire. On se dit, bah oui, c'est la date de la scission, de l'apparition de force ouvrière. En fait, c'est beaucoup plus que ça, ce qui se passe dans cette période-là. J'ai déjà évoqué ces deux organisations qui ont fait scission dans les chemins de fer et dans les postes. Alors, celles-là, elles vont rejoindre après force ouvrière. L'une sera au congrès fondateur, l'autre rejoindra un peu plus tard. Mais il y en a déjà qui sont partis. Notamment parmi les fonctionnaires, la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires va se constituer en 1949, mais elle va regrouper des syndicats qui ont quitté la CGT dans cette période-là, sans se raccrocher à FO. C'est le cas aussi du syndicat des contributions directes, qui est l'ancêtre de l'actuel SNUI, le syndicat unifié des impôts, qui est un grand syndicat de cette administration, qui est maintenant une partie importante de Solidaire, mais qui va rester autonome très longtemps. Et par départ de la CGT dans cette période-là, il en est ainsi des syndicats de police qui quittent la CGT aussi en 1946, qui ne vont pas rejoindre FO, qui vont rester dans l'autonomie. Ça va donner d'ailleurs une histoire assez compliquée du syndicalisme policier qui va prendre la figure de la FASP, de la Fédération Autonome des Syndicats de Police, pendant un moment, et qu'on va retrouver plus tard, mais qui, à cette époque-là, prend son autonomie. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que j'appelle moi ce processus celui d'un Big Bang, c'est-à-dire il y a une véritable explosion de la représentation qui va donner, qui va laisser le tronc principal à la CGT autour du noyau communiste, qui est plus qu'un noyau, il y a aussi pas mal de la chair autour, c'est vraiment le cœur de la CGT et communiste, même s'il n'y a pas que des communistes à la CGT, ça va de soi, mais enfin le cœur, ce qui tient, la charpente si vous voulez, elle est quand même constituée par des communistes. Et puis autour, eh bien, tout un tas d'organisations dont la forme la plus avancée est celle de FO, c'est-à-dire ce regroupement dont on va reparler, mais il y en a d'autres, il y a plein de petites organisations. Parce que la question va aussi se poser à l'intérieur des FO. Comment ça se passe, une scission, au moment de la scission? C'est assez compliqué. Vous êtes syndiqué dans votre entreprise, on vous annonce une scission confédérale. Vous faites quoi? Vous regardez ce que font les autres d'abord. Alors le syndicat, il regarde ce que font les gens de la même profession, il regarde ce que font les gens de l'union départementale, et très souvent c'est au niveau des fédérations que la discussion s'est faite. Il y a des fédérations où il n'y a pas eu beaucoup de discussions. La fédération de la métallurgie, elle a décidé de rester à la CGT, et ceux qui n'étaient pas contents, ils sont partis créer une fédération FO de la métallurgie. Ça c'est le scénario le plus courant. Mais il y a des endroits où il y a eu un vote préliminaire qui était « est-ce qu'on se sépare ?» Et certaines fédérations, c'était le cas de la Fédération du Livre, par exemple, ont eu un vote préliminaire dans lequel ils ont dit « On verra après, mais il y a une décision qu'on prend, c'est on reste ensemble. » Ah oui, mais à où? Alors le deuxième vote, c'était plus compliqué. C'est où? Où est-ce qu'on reste? Et alors dans le Livre, alors qui était une fédération à majorité force ouvrière, très nettement, puisque la tendance FO se réunissait dans les locaux de la Fédération du Livre. Donc c'était une fédération réformiste, historiquement réformiste d'ailleurs, et tous les dirigeants étaient à FO. La Fédération du Livre, dans son deuxième vote, elle a adopté, à une courte majorité, le fait qu'on restait à la CGT. Or, c'est un peu paradoxal. Pourquoi? Il faudrait rentrer dans des détails. Disons qu'il y a une chose qui surnage dans cette décision, c'est le label. Vous savez que dans la profession du livre, dans le livre et dans la presse, il y a le label, c'est-à-dire qu'il y a une mention dans les journaux qui existait à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore d'ailleurs, qui était le tampon, ce journal a été fait par des ouvriers syndiqués. Et donc, c'est ce qu'on appelait le label qui était reconnu, et il y a assez peu de journaux qui pouvaient sortir sans avoir ce label. Et du coup, la CGT avait un certain monopole de la profession dans la presse et dans l'imprimerie de labeur aussi. C'est un système qui fonctionnait comme ça. Le recrutement se faisait essentiellement par le syndicat. Et donc, ils avaient très peur qu'en abandonnant le sigle CGT, ils ne perdent l'usage du label. Enfin bon, ça c'est un détail, mais qui fait que, contre toute attente, la Fédération du Livre est restée en bloc à la CGT, alors qu'on la voyait plutôt à majorité réformiste. Il y a eu un débat aussi parmi les enseignants. Alors eux aussi, la Fédération de l'Éducation nationale de la CGT, ils ont eu un premier débat qui était « est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on se divise ?» Et là, le premier vote, c'était « on reste ensemble ». Et alors après, le débat « mais oui, mais où ?» a été un débat compliqué, parce qu'il y avait trois positions. Les premiers, c'était « on reste à la CGT », les deuxièmes, c'était « on va à FO », ça faisait à peu près un tiers chacun, et il y avait un troisième tiers qui était dire « on passe à l'autonomie ». On sort du jeu. Et en fait, il a fallu se décider pour cette dernière option, parce que c'était la seule qui permettait de garder l'unité. Et du coup, les enseignants sont sortis du système confédéral. Ils n'ont pas voulu choisir entre la CGT et FO, et ils ont constitué la FEN autonome, la Fédération de l'Éducation nationale, qu'on a appelée longtemps Fédération de l'Éducation nationale autonome, parce que c'était la continuation de la Fédération de l'Éducation nationale CGT, mais en dehors de la CGT, puisque maintenant il y avait deux CGT concurrentes. Pour préserver l'unité corporative, ils sont sortis du jeu confédéral, et ce n'était pas un mince paquet, parce que la CGT comme Force ouvrière ont décidé à cette époque-là de ne pas syndiquer les enseignants, de laisser ce champ à la FEN. Alors bon, il y a une exception qui sont les enseignants du technique, parce que c'était la plupart du temps d'anciens ouvriers qui préféraient garder leur affiliation CGT. Donc eux, la CGT a continué à syndiquer les enseignants de l'enseignement technique, mais FO a renoncé. Et d'ailleurs, pendant toute une période à la FEN, on pouvait avoir la double affiliation. On pouvait être enseignant, on pouvait être syndiqué à la FEN et à la CGT, ou syndiqué à la FEN et à FO. La double affiliation était autorisée. Ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi ? On voit bien, quand même, si on se met dans cette période-là, c'est que finalement, la plupart des gens qui étaient là, ils avaient connu la première scission des années 20. Et la scission de CGT-CGTU, elle a fini dans une fusion en 36. Et pour beaucoup de gens, et notamment les enseignants qui n'étaient pas très moteurs dans cette scission, ils avaient le sentiment qu'elle ne durerait pas très longtemps. Et que passé cette période d'intense tension internationale, parce que c'est quand même d'abord ça, la guerre froide, eh bien, les conditions d'une fusion, d'une refusion des deux CGT pour reconstituer la grande CGT, qui est le mythe fondateur, la grande CGT, eh bien, les enseignants, d'une certaine manière, se mettaient en réserve. Mais ils se rendaient disponibles pour toute opération de fusion. Et d'ailleurs, très longtemps, la FEN a voulu jouer ce rôle de passerelle entre la CGT et Force ouvrière. On va en reparler. Bon, pour l'essentiel quand même, et notamment, toutes les fédérations de l'industrie sont restées à la CGT. Et Force ouvrière va porter très longtemps les traces, d'ailleurs, d'une scission relativement ratée. J'en reparlerai. Alors, on va voir d'abord un petit peu maintenant l'histoire de... On va les prendre toutes les trois, l'une après l'autre, assez brièvement, hein, mais un peu la trajectoire que ces centrales-là vont avoir, ces syndicats-là vont avoir, une fois enregistrée, hein, l'explosion du système. On peut distinguer à peu près... Alors bon, les historiens, on aime bien faire des périodisations, et les périodisations, on les fait en fonction de ce qu'on veut démontrer. C'est un peu logique, ce qui fait qu'on a affaire à des tas de périodisations différentes selon les historiens. Là, j'ai repris un petit peu celle qu'a faite Michel Dreyfus dans son livre que je vous conseille, qui s'appelle « Histoire de la CGT », qui n'a qu'un défaut, c'est qu'il est paru en 1995, donc il ne tient pas compte de l'histoire récente, mais en tout cas sur toute la perspective historique. C'est un petit livre paru aux éditions Complexes, donc il y a quelques années, et qui est un très bon... condensé de la période de l'histoire de la CGT en longue période. Alors, lui, il fait quelques séquences, je vais reprendre les siennes et puis je les prolongerai sur la période actuelle. La première phase, quand même, qu'on peut distinguer dans cette période, c'est une phase d'intense solitude de la CGT qui va de 47-48 jusqu'en 1955. Alors, la période est très tendue, c'est pas uniquement un choix de la CGT, hein, c'est qu'il y a des graves questions sociales autour des salaires, autour des conditions de travail, je l'ai dit, qui traverse le champ social et qui inspire des conflits assez durs, d'abord chez les métallurgistes et surtout chez les mineurs. C'est là que se passe la grande grève de 1948 des mineurs, qui vient de la publication des décrets Lacoste. Alors Robert Lacoste est ministre du Commerce. Robert Lacoste est un ministre socialiste. Il a d'ailleurs été cégétiste avant-guerre, et même pendant, il était un des dirigeants de la tendance réformiste autour de Léon Jouy. Il passe en politique à la Libération, il devient ministre. Il est ministre du Commerce et de l'Industrie et il prend des décrets qui réforment les conditions de travail dans les charbonnages. Et là, ça va déclencher des conflits très importants parce que ça revient sur ce qu'on appelait le statut du mineur, hein, qui avait été établi au début du XXe siècle, donc des avantages spécifiques, avantages entre guillemets, qu'avaient les mineurs sur leur durée de travail, sur les prises de poste, etc. Enfin bon, ils avaient un régime de travail un peu spécifique qui était lié aux conditions de travail chez eux. Et le décret fait reculer. Donc, bon, grève dans les bassins. La CGT organise un référendum sur la poursuite du conflit. 85% des mineurs sont pour la poursuite, votent la reconduction. Alors, FO s'y oppose. Les socialistes au gouvernement, ils ne sont pas en bonne posture, puisque c'est Lacoste qui est ministre, et puis le ministre de l'Intérieur, c'est Jules Moc, un autre socialiste. Il vient d'inventer les CRS, et du coup, ils vont être mis en œuvre immédiatement pour l'occasion. Et bon, on a un débat un petit peu tendu, parce que pour beaucoup de gens, ce qui va, c'est la thèse de Jules Moc, c'est de dire les communistes ont été chassés du gouvernement, ils veulent renverser le gouvernement, on est dans une logique politique et non pas dans une logique sociale. Alors, il est sûr que la CGT n'était pas d'une innocence totale en lançant toutes ses forces dans la bataille des mineurs, parce que derrière, il y avait une bataille politique dans le pays. En même temps, il y avait un vrai problème quand même, qui était celui des conditions de travail des mineurs. Donc, c'était souvent difficile et quasi impossible d'ailleurs, de déconnecter la dimension politique et la dimension sociale du conflit. Mais FO et les socialistes, d'ailleurs, s'en sont totalement désolidarisés, enfin, se sont opposés à cette grève, pour des raisons essentiellement politiques, ce qui les plaçait du coup un petit peu en porte-à-faux sur la question sociale. Et ça n'a pas aidé FO à renforcer sa position parmi les ouvriers. Alors, il n'y a pas eu de stratégie de prise du pouvoir des communistes. Depuis, les historiens ont fait le clair là-dessus. Par contre, la volonté d'utiliser le conflit pour combattre la droite et les socialistes, évidemment, elle existait. Enfin, ça s'est très mal passé parce que les puits ont été repris militairement par l'armée, un par un. On a tiré, il y a eu des morts. Bon, les CRS ont eu même l'autorisation d'utiliser leurs armes. Et derrière, surtout, il y a eu 2000 militants qui ont été licenciés. Et comme à l'époque, il y avait encore les livrets ouvriers chez les mineurs, eh bien, ceux qui avaient porté sur leur livret ouvrier la mention « Sorti des puits en 1948 » écrit en rouge, ceux-là n'ont jamais retrouvé de travail dans les régions minières. Et ça a été une période un petit peu compliquée. Donc on voit mal aujourd'hui l'ampleur des violences de cette période-là, quoi qu'on est en train d'en revoir certaines formes dans la période actuelle. Enfin, on n'en est pas encore à tirer sur les ouvriers. Bon, c'est aussi la période du stalinisme triomphant, l'apogée, les grandes dans les manifestations où la CGT traînait d'immenses portraits de Staline, etc., avec le deuil populaire du 5 mars 1953, le lendemain de la mort de Joseph Staline, où tout le communisme français portait le deuil du guide des peuples. Bon, alors aujourd'hui, on peut en ricaner avec le recul, c'est sûr. À l'époque, c'est bon, pour les militants communistes, c'est effectivement une référence qui disparaît, et un point d'appui surtout, une espérance sociale, l'URSS, la patrie du socialisme, etc. On a évidemment tout un système de croyances qui se construit là-dessus et qui a supporté l'engagement, non seulement communiste, mais cégétiste pendant toute une période, et qu'il ne faut pas sous-estimer de manière un peu hautaine. Évidemment, avec le recul de l'histoire, c'est toujours facile de relativiser les choses. Alors, la CGT, à cette époque-là, a un discours relativement carré. Elle mène des campagnes pour le camp de la paix, avec le mouvement de la paix, contre l'arme nucléaire, contre la guerre de Corée. En 1952, il y a même le général Ridgway qui vient à Paris. Il est commandant en chef des troupes américaines en Corée. La CGT décide d'appeler à la manifestation contre la présence de Ridgway. La manifestation est interdite. Ils y vont avec des manches de pieux. Enfin, ça se passe très mal, ça cogne. On met même Benoît Frachon se retrouve en prison. Enfin, bref, c'est là aussi, c'est assez violent. Et d'ailleurs, avec un bilan un peu autocritique de la CGT, parce que les grèves sont pas derrière. On essaye de faire débrayer les ouvriers pour protester contre ça. Mais enfin, les ouvriers à l'époque, général Ridgway, c'est pas exactement leur problème. Donc il y a un échec à peu près total des mobilisations qu'il y a derrière, et du sein même de la CGT, à commencer par Frachon, on commence à essayer de distancier la CGT de ces mouvements-là. Donc jusqu'en 55, la CGT connaît un affaissement assez brutal, une première désertion des adhérents qui partent extrêmement vite. Et d'ailleurs, en 55, on parle l'année politique, l'éditorial de l'année politique qui sort tous les ans. L'éditorialiste parle de crise du syndicalisme en 1955. Vous voyez que c'est un thème récurrent. Mais donc, il y a une espèce. Après les 3 800 000 adhérents de 46, on est déjà dans une période critique. Alors, la CGT va aborder une nouvelle période 56-62, parce que en 56, il y a un petit apaisement. D'ailleurs, dans la guerre froide, les historiens arrêtent la guerre froide à 56. C'est la période où s'inaugure celle de la coexistence pacifique entre l'Union soviétique. Et c'est la période Khrouchtchev, c'est la période où on commence à discuter, On entendait le rapport Khrouchtchev aussi en Russie, avec une autocritique sur la période stalinienne, bon, qui a peu d'incidence, peu d'écho en France, bien que, dit-on, Benoît Frachon questionne le bureau politique du Parti communiste sur l'existence du rapport attribué au camarade Khrouchtchev, puisque c'est comme ça que dans le monde communiste on a reçu, hein, la révélation des crimes de Staline est reçue avec pas mal de suspicion par par les communistes français, mais enfin il y en a qui commencent à se poser des questions et à les poser. Donc la CGT, le PC aussi entame une période plus frontiste, plus unitaire. En 1956, il y a un gouvernement de front républicain qui est soutenu par le Parti communiste, et on rentre dans une... Passer la période sectaire, si vous voulez, on rentre dans une période plus unitaire. Un discours plus ouvert, une sortie de l'isolement, hein, des communistes français. Alors ça va être difficile, parce qu'en même temps, c'est la période où va s'aiguiser la guerre d'Algérie, hein, 1956, Guy Mollet, président du Conseil socialiste, envoie des troupes, le contingent en Algérie, et on rentre dans cette période qu'on a appelée les événements d'Algérie, pour ne pas l'appeler la guerre, dont les communistes vont se désolidariser. Et donc, ils vont à nouveau choisir une voie un peu plus distanciée, mais malgré tout, on n'est pas dans la période antérieure. La CGT se tourne vers FO pour essayer de reconstituer des relations unitaires, donc FO refuse évidemment. Et puis c'est une période très politique en même temps. 58, c'est le coup d'État du général de Gaulle, c'est le changement de régime. La CGT, comme le Parti communiste, va tenter de s'y opposer. Elle va même appeler les ouvriers à débrayer en septembre 58 contre le nouveau régime qui s'installe. C'est un échec total. Et parce qu'en fait, les ouvriers ont laissé passer la Ve République et le retour du général de Gaulle assez largement. Et du coup, la CGT va après se recentrer sur des questions revendicatives, après 61, 62, et notamment la bataille contre le plan Pinet-Rueff, le plan de stabilisation adopté en 58, et qui va être renforcé par le plan Giscard, le plan de refroidissement en 1961. Donc là, on va retomber sur de la bataille syndicale revendicative, les salaires, etc. Mais en même temps, et c'est ça qu'il faut bien apprécier dans cette période, même où la CGT a un discours assez radical, en même temps, elle connaît un début d'institutionnalisation. Je veux dire par là que en 46 a été prise cette loi sur les comités d'entreprise, qui fait que la CGT, dans les CE de l'industrie, elle est largement majoritaire, elle va quand même se trouver à la tête de dispositifs internes aux entreprises. Alors, les comités d'entreprise, ça ne fait pas grand chose encore à cette époque-là. Hein, ils font l'arbre de Noël, ils font la bibliothèque, ils aident les ouvriers à partir en vacances. Alors on cite celui de Renault, le grand comité d'entreprise de Renault, celui d'EDF, évidemment, le CCOS, qui deviendra CCAS plus tard, qui bénéficie de moyens très importants. Donc, d'une certaine manière, les militants de la CGT apprennent quand même la gestion. Ils deviennent gestionnaires d'un certain nombre d'institutions dans l'entreprise, mais aussi hors entreprise. Il y a eu, avant-guerre, des tentatives de mutuelles ouvrières animées par des militants de la CGT, notamment dans la région PACA, enfin dans le Var, à Marseille, Molineau faisait beaucoup ça, avec la création d'une union des mutuelles ouvrières après-guerre, hein, qui rassemblait des mutuelles organisées par la CGT. La CGT communiste, ça deviendra plus tard la Fédération nationale des mutuelles ouvrières, qui va être dirigé par Reynaud, qui est en même temps membre du bureau confédéral de la CGT, secrétaire de la CGT, comme on dit, en 1960. Donc il y a une activité, si vous voulez, c'est pas la CGTU d'avant-guerre, hein, qui était totalement extérieure à tout ça, qui combattait le capitalisme d'une manière sans s'impliquer dans les rouages du capitalisme. Là, on a une CGT qui, malgré tout, et quel que soit son discours de contestation du système, en même temps s'y installe dans les caisses de sécurité sociale. Elle n'est pas en position de direction, hein. On a fait des alliances pour éviter d'avoir la CGT, mais malgré tout elle est dans des caisses locales, elle pratique la gestion, et donc on a sans cesse ce double registre qui est à la fois une CGT avec un discours radical et en même temps une certaine institutionnalisation de ses militants. Alors la troisième période, 63-67, c'est une période de montée des conflits. J'en ai déjà parlé, je vais aller vite. Après 63, donc fin de la guerre d'Algérie, ça va libérer un peu les énergies. Et 63, c'est la grève des mineurs, la grande grève du début de l'année 63, très soutenue par l'opinion publique, avec maladresse sur maladresse du pouvoir politique, la réquisition déclarée par le gouvernement gaulliste, etc., contre l'opinion publique. Et finalement, ils sont obligés de plier parce que la réquisition n'a eu comme effet que de doper, hein, la mobilisation qui se renforce après. Donc, dans la foulée de cette relative victoire des mineurs, même si la fin de conflit ne se déroule pas très bien, il y a des conflits qui reprennent à EDF, à la RATP, etc., dans les grands services publics, là où la CGT devient très puissante. Alors, même si elle est très puissante aussi dans les industries, on voit quand même que le cœur de la mobilisation, dès cette période-là, c'est quand même bien les grands services publics. Hein. Même qu'à l'époque, le secteur nationalisé est très ample, hein. Il y a eu énormément de nationalisation à la Libération. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Mais, malgré tout, c'est là qu'est le cœur de la puissance, les charbonnages, etc. Alors, en janvier 66, il y a ce pacte unitaire avec la CFDT qui est constitué. J'en ai un peu parlé quand on a fait un bout de séance sur mai 68, puisque c'est quand même dans ce pacte unitaire de 66 que va commencer à naître les mobilisations unitaires qui vont éclater en mai 68. Donc, il y a des grandes journées interprofessionnelles en mai 66 et en 67. Et la CGT surfe un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'elle va regonfler un peu ses effectifs. Elle ressort de la période de crise qu'elle avait connue, et d'une manière relativement unitaire, quoi. Elle est moins isolée du fait de cette alliance, inattendue d'ailleurs, un peu surprise, avec la CFDT qui vient de se constituer, elle est née en 1964. Et puis, la période politique aussi se prête à ça, puisqu'en 65, il y a une candidature unique de la gauche à l'élection présidentielle, hein, derrière François Mitterrand, que le Parti communiste soutient dès le premier tour. Donc la CGT est dans un climat unitaire. Petite note amusante. En février 68, la CGT signe un accord, une édicte sur l'indemnisation du chômage partiel. La CFDT s'en étonne et critique même la CGT pour avoir signé un accord avec le gouvernement dans une période de tension sociale et de mobilisation. Je referme cette parenthèse qui est un clin d'œil à l'actualité. Avec mai 68 va s'ouvrir une nouvelle séquence, évidemment, hein, dont on en a parlé, qui va durer en gros... Alors, Dreyfus fait une coupure en 72. Bon, prenons là, je pense qu'il y a une séquence qui va vraiment jusqu'en 78, là. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a un petit infléchissement en 72. Enfin, 72 marque un événement important. C'est ce qu'on a appelé, ce que j'avais appelé la dernière fois, dans le sillage de beaucoup de gens qui ont travaillé sur 68, ce qu'on appelle les années 68. C'est-à-dire que les années jusqu'en 73-74, on est dans la dynamique des années 68, avec un grand nombre de conflits, avec aussi des luttes qui émergent dans des secteurs qui jusque-là étaient mal maîtrisés par les syndicats. Les jeunes OS, souvent immigrés, chez Renault, dans la métallurgie de manière générale, qui mettent un peu en question le travail, ce qu'on a appelé le travail en miettes, le travail aux pièces, hein, le travail segmenté, le taylorisme. Et donc le syndicalisme est un peu stimulé par ça. Plus la CFDT, d'ailleurs, qui va en profiter que la CGT. La CFDT est plus ouverte sur ces jeunes travailleurs. En plus, elle cherche un petit peu, après 68, à déborder la CGT sur sa gauche. Donc, elle s'implique assez bien dans ces conflits-là. La CGT, visiblement, reste plus adossée aux ouvriers, je dirais, classiques. Les ouvriers qualifiés, la métallurgie, les grandes entreprises. Elle est moins spontanément inscrite dans les conflits... des jeunes issus de l'immigration ou même des OS, des travailleurs déqualifiés. Mais enfin, elle n'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Ce qui commence à gêner la CGT dans les représentations qu'elle évoque, c'est cette alliance avec les pays de l'Est qui commence à véritablement lui poser problème pour deux raisons. D'abord, il y a eu les événements de Tchécoslovaquie en 68 qui ont eu un effet dévastateur sur l'opinion publique, la façon dont étaient perçus les régimes de l'Est. Alors, ça n'a jamais été considéré comme le paradis des ouvriers, enfin, dans les années 50 un peu, mais après les années 60, il n'y a plus beaucoup de gens qui rêvent au paradis socialiste des pays de l'Est. Mais là, avec 68, il y avait déjà eu l'alerte de 56 en Hongrie, mais là, avec l'invasion des troupes, c'est en plus un espoir qui chute, parce que la Tchécoslovaquie du printemps de Prague, c'est la possibilité d'un socialisme démocratique. C'est pas, contrairement aux événements de 89, qui seront une volonté largement partagée de se débarrasser du socialisme sous cette forme-là, enfin, mais même toute forme de socialisme, d'ailleurs, dans ces pays-là. Dans les années 60, la contestation, notamment en Tchécoslovaquie, mais il y avait des mouvements déjà en Yougoslavie, il y en a eu en Pologne aussi, pense un socialisme en dehors de la tutelle soviétique, donc un socialisme qui serait démocratique, qui fonctionnerait sur une base ouverte avec la liberté d'expression, de pensée, d'organisation, la liberté de la grève, etc. Et c'est l'effondrement de 68 de Tchécoslovaquie, et donc très très lourd. D'une certaine manière, d'ailleurs, les communistes italiens vont en tirer cette conclusion-là. Le modèle soviétique meurt là, hein, aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que, visiblement, ce communisme-là est irréformable. C'est ça, la révélation de la Tchécoslovaquie de 68. Et donc, c'est un coup de tonnerre pour beaucoup de gens, et les communistes français commencent à être un petit peu embarrassés par cette alliance, cette image, dont ils ne se défont pas vraiment, d'ailleurs, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Et la CGT est pénalisée par ça, dans les années 60, d'autant que, dans la révolte de 68, et notamment les années 68, avec les générations qui vont les porter, on a une entrée en crise de toutes les institutions autoritaires de la société. L'armée, la contestation du service militaire dans les années 70, la contestation de la famille avec les mouvements féministes qui émergent, la contestation de tout ce que Althusser appelait les appareils idéologiques d'État. L'école, les lois Debré qui sont contestées, il y a des grandes manifestations lycéennes à partir de 72, etc. On est dans une ère de remise en question des appareils idéologiques d'État, les appareils répressifs d'État, pour reprendre cette vieille... cette vieille façon de les séparer. Et donc, l'allégeance maintenue par la CGT, même si elle a critiqué l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, elle a désapprouvé. Par contre, elle a condamné avec une grande force les campagnes anticommunistes auxquelles ont donné lieu les réactions à l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. J'en profite. Donc la CGT commence à connaître des difficultés dans cette période-là, et elle va trouver une bouée de sauvetage en 72 avec la signature du programme commun de gouvernement par les partis de gauche. Et à partir de là, c'est pour ça que Dreyfus fait une césure, il considère que 72 est le démarrage d'une nouvelle phase, et c'est pas inexact. Dans les mouvements revendicatifs qui vont avoir lieu à partir de cette période-là, la CGT va mettre en avant comme réponse le programme commun. Et c'est d'ailleurs, dans les grandes manifs, c'était une seule solution, le programme commun, auquel évidemment... toute une autre partie répondait une seule solution, la révolution. Mais là, il y avait un conflit de conception de la dynamique du mouvement social qui était assez clair, et la CGT s'est vraiment inscrit dans la logique d'un débouché électoral des mobilisations sociales importantes de cette époque-là. Donc c'est une période, mettons, hein, 68-72, et la période qui suit donc nous emmène jusqu'en 78, où là, il y a une vraie rupture. Les années 72-70 sont dominées par le programme commun, par l'hypothèque politique. La gauche peut arriver aux affaires. Bon, l'élection présidentielle de 74, hein, qui est à 50-50, Giscard Mitterrand, et la possibilité, en 78, d'envisager une victoire électorale de la gauche aux élections législatives. Bon, alors on sait que c'est la période où va se disloquer la logique du programme commun, l'unité de la gauche, et qu'en 78, les élections, il y a un échec. Et surtout le sentiment que le Parti communiste ne veut pas d'une victoire de l'Union de la gauche dans une période où le Parti socialiste est passé devant lui. Hein, électoralement, ce n'était pas le cas. En 72, le PS était derrière le PC. Par contre, la dynamique unitaire, manifestement, bénéficie électoralement davantage au Parti socialiste qu'au Parti communiste, qui lui-même commence à connaître une décroissance électorale. La CGT a un petit peu, d'ailleurs, les mêmes réactions par rapport à l'unité d'action qu'elle entretenait avec la CFDT. Elle a eu le sentiment que la CFDT en avait profité plus qu'elle, ce qui se discute. Mais en tout cas, en 78, il va y avoir aussi rupture des relations entre les deux organisations, entre la CGT et la CFDT. Ça ne s'était pas bien passé en 68, mais elles avaient gardé des relations après. Alors qu'en 78, il y a une grande césure, hein, là, une rupture qui va dominer toute la période jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment 78-79, j'en ai déjà parlé, parce que c'est vraiment une période décisive, hein, une période de retournement, et notamment hein, la grève de la sidérurgie Lorraine et dans le nord de la France, après l'annonce du plan de restructuration sidérurgique de 78. On va avoir des grandes mobilisations autour de Denain et de Longwy, qui sont les bassins sidérurgiques touchés par la restructuration, des grandes manifestations, dont une à Paris en mars 79, hein, où il y a tous les... La région, hein, qui est la région Lorraine notamment, qui s'est mobilisée, journée porte ouverte, etc., et où à la sortie, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils vont obtenir des plans sociaux, enfin, un étalement des licenciements, des pré-retraites massives, etc. Mais rien, en tout cas, sur le maintien des sites de production. Et donc, c'est la première grande défaite massive du mouvement syndical qui est, à cette époque-là, à son apogée. Jamais les syndicats dans l'après-guerre, enfin, en dehors des périodes très intenses, hein, de 45-46, mais qui vont, hélas, pas durer très longtemps, c'est la période, d'ailleurs, il y a un colloque d'histoire où on a appelé cette période l'apogée des syndicalismes, hein, qui est cette période des années 70, et il y a un vrai tournant après 78-79. Donc, une nouvelle période, que là encore, on peut scinder, disons, en 78-81, qui sont des années un peu difficiles, puisque l'union de la gauche s'est rompue, donc la référence au programme commun n'a plus de sens, et la CGT se trouve assez dépourvue dans une période d'autant plus compliquée que la crise se déploie, c'est-à-dire qu'on a des conflits cette fois-ci qui sont des conflits de haut mur, c'est plus les conflits conquérants des années 70, on est sur des conflits de restructuration, de licenciement, et à l'époque on appelle ça encore des plans de licenciement, on n'appelle pas ça des plans sociaux. Bon. Donc la CGT commence à enregistrer des retraits très importants dans ses rangs d'ouvriers qui désertent, hein, et qui commencent à prendre la poudre d'escampette par rapport au mouvement syndical et notamment à la CGT. Alors, en 78, la CGT a un congrès très important qui se tient à Grenoble et où les choses sont un peu mises à plat. Son secrétaire général de l'époque, c'est Georges Segui, il fait le constat que ça ne peut plus durer comme ça, que la stratégie du programme commun, c'est-à-dire rendant dépendant le syndicat d'une alternative politique qui ne venait pas, était mortifère à terme pour le syndicat, et que sa dépendance à l'égard d'un parti communiste qui oscillait entre une stratégie unitaire et une stratégie de dénonciation des socialistes, sans très bien savoir où il allait, d'ailleurs dès qu'il en changeait, il s'affaiblissait encore plus qu'avec la stratégie précédente, la spirale dans laquelle est rentré le PC dans ces années-là était assez redoutable, et la CGT commençait à craindre d'être emportée dans cette spirale, ce qu'elle finira d'ailleurs par connaître. Mais en tout cas, en 78, Segui pose la question, et au Congrès, il y a une décision qui est prise d'ouvrir un peu l'organisation, de la déconnecter du Parti communiste. Il y a cette prise de conscience d'un décalage sociologique aussi, de la composition de la CGT par rapport au salariat. La CGT a gagné des adhérents dans la période des années 70, mais en fait, il y avait une illusion d'optique. Elle pensait se renforcer, mais elle a gagné beaucoup moins que ne se développait le salariat à la même époque. Les années 70 sont une année de progression de la salarisation des travailleurs qui est très importante. Et donc la population active gonflait beaucoup plus que le syndicat. Le taux de pénétration du syndicat, si vous voulez, s'affaiblissait. Le taux de syndicalisation s'affaiblissait alors même qu'il recrutait davantage d'adhérents. Et ça n'est devenu visible qu'à la fin des années 70. Et surtout, la prise de conscience qu'il y avait un risque de désyndicalisation, Segui a donc pris la tête d'un espèce de mouvement de rénovation interne, mais qui n'a pas été en réalité très loin. Hein. C'est-à-dire que bon, les forces de résistance se sont aussi mises en place. Comme souvent, quand la CGT a essayé de bouger, ça a généré un mouvement d'ouverture, mais en même temps un contre-mouvement. Hein. C'est ça la dialectique aussi. Hein. Ça a généré des processus de refermeture. Et dès 79-80, on a vu, bon, appelons ça par facilité, les orthodoxes, reprendre un peu la main à l'intérieur de la CGT et reverrouiller la centrale. Et Segui a été contraint de s'aligner. Il a annoncé d'ailleurs, dès cette époque-là, qu'il se retirait. Enfin, il était atteint par la limite d'âge des cheminots, mais enfin, c'était pas évident qu'il se retire. Donc, déjà, la période était assez propice à la refermeture. On l'a bien vu en 79, lorsque les troupes soviétiques sont rentrées en Afghanistan, la CGT n'a pas eu un mot de condamnation de l'intervention en Afghanistan. Elle a dit que c'était difficile de se prononcer sans savoir, elle a envoyé une délégation là-bas, elle a envoyé une délégation à Kaboul, on les a promenés, on leur a montré, bon, ils sont revenus en disant on n'a rien vu, donc on n'a pas pris position. Voilà. Hein, donc, bon, et puis après, il y a eu l'affaire de la Pologne qui est arrivée par là-dessus. Alors là, c'était encore pire, parce que c'était un syndicat, Solidarité, Solidarność, qui était suspendu par le pouvoir polonais. Il y a eu le coup d'État du général Jaruzelski. Que dit la CGT ? Rien. Alors bon, là, ça commençait à... Hein, il y a pas mal de gens qui ont quitté la CGT à cette époque-là. Ça devenait difficile à assumer. Et là, cette désyndicalisation qui avait commencé a été amplifiée, hein, par les prises de position internationales à cette époque. Bon, on peut ajouter les campagnes pro-bison français, hein, en Lorraine, etc., qui n'ont pas été du meilleur goût non plus. Et l'affaire du bulldozer de Vitry, par là-dessus, n'a pas arrangé les choses non plus. C'est-à-dire que par rapport à l'immigration, la CGT, à ce moment-là, a flirté. Enfin, d'ailleurs, l'affaire du bulldozer de Vitry, c'était pas la CGT, c'était le Parti communiste. Il y a eu, à la même époque... Je rappelle l'histoire du bulldozer de Vitry. C'est un foyer de travailleurs immigrés qui a été mis par terre par un bulldozer envoyé par la mairie. Si vous voulez, à l'époque, il ne faut pas faire de démagogie non plus, les municipalités communistes de la ceinture rouge voulaient attirer l'attention sur le fait que c'est elles qui se récupéraient tous les problèmes sociaux qui commençaient à monter dans les années 80, et notamment la concentration de situation sociale des travailleurs issus de l'immigration, et qu'elle en avait marre que les communes aisées déversent les problèmes sociaux sur les communes avoisinantes, en général, ce qui relevait de ce qu'on appelait la ceinture rouge. Et donc Vitry, évidemment, c'est une ville emblématique. Et là, il y avait un foyer de Maliens, je crois, qui était en surpopulation, etc., qui posait des tas de problèmes, et que les communistes sont allés le déblayer. D'ailleurs, le secteur immigration de la CGT s'est violemment opposé à ça. Il n'a pas eu tout le soutien qu'il aurait eu. C'est d'ailleurs à l'époque de Marius Apostolo qui menait ces luttes-là au secteur immigration de la CGT. Et il est parti en claquant la porte. Il y a eu en 82 une dissolution du service de l'immigration parce que la CGT n'a pas résisté à cette tentative. Puis il y a le maire de Montigny-les-Cormeilles aussi qui avait appelé une manifestation devant le logement d'une famille immigrée, je ne sais plus de quelle, un maire communiste qui allait compter, puisqu'il s'appelait Robert Rue. Donc c'était pas tout à fait n'importe qui. Et disons qu'à cette époque-là, le PC a flirté assez dangereusement avec des thématiques qui allaient resservir à d'autres après. Notamment quand le Front National va monter dans les années 80, on va se rendre compte du danger qu'il y a à jouer avec ces thématiques anti-immigrés. Alors, c'était pas exactement, il faut pas faire de faux procès, c'était pas la thématique du Parti communiste, c'était pas de dresser les gens contre l'immigration, mais de soulever le problème de la gestion de ces travailleurs. Mais enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et en l'occurrence, ça n'a pas arrangé les affaires de la CGT à cette époque-là. Donc c'est une période... commencent les années noires pour la CGT, le début des années 80. Ça va s'aggraver par la suite. Alors, septième période, 81-84, on arrive maintenant à faire des tranches très fines dans l'histoire. 81-84, la gauche arrive contre toute attente aux affaires. Il y a des ministres communistes au gouvernement. Et alors là, la CGT va à nouveau faire un virage. C'est-à-dire qu'elle va être unitaire. Enfin, unitaire un petit peu toute seule, parce qu'avec la CFDT, ça va vraiment très mal à cette période-là. Encore plus mal avec FO, parce que FO, qui ne fait pas de politique, a quand même condamné publiquement, par une lettre ouverte au Premier ministre, la présence de ministres communistes au gouvernement. Donc on est dans une période de bataille politique assez intense. Et la CGT va prendre une posture par rapport aux luttes sociales plus qu'ambiguë. C'est-à-dire qu'elle va plutôt avoir tendance à canaliser les mouvements en disant « Ah, il y a un gouvernement d'unité de la gauche, laissons-lui sa chance, etc. » Donc elle va plutôt apaiser les luttes avant d'opérer un nouveau retournement en 84, quand les ministres communistes vont sortir du gouvernement. C'est lors de du gouvernement Fabius qui développe là une politique. Alors là, c'est la parenthèse de la rigueur, si vous vous souvenez. C'est-à-dire, il faut être au début du processus pour se souvenir que c'était une parenthèse, parce que comment on n'a jamais vu la fermeture. Il faut vraiment être au début. Donc 84, le début de la parenthèse de la rigueur où... D'ailleurs, la CGT pousse les communistes à sortir du gouvernement. Là, on voit bien qu'il y a des débats à l'intérieur de la mouvance communiste, où le parti, lui, resterait bien encore un peu au gouvernement, et où la CGT les presse d'en sortir, parce qu'il y a de la conflictualité, et que la CGT ne veut pas se laisser décaler par les mobilisations en cours. Donc là, à partir de 84, la CGT va s'enfermer d'une certaine manière dans ce qu'on appellera la stratégie lutte militante, qui est une stratégie de coup. On va envahir l'usine SKF dans le Val-de-Marne, on fait des coups, il y a l'affaire de la Ciotat, des chantiers de la Ciotat, où la CGT va occuper un navire qui est en cours de construction, les 36 marins je ne sais plus comment s'appelait le bateau, qu'on va occuper à la Ciotat contre la fermeture des chantiers navals, etc. Bref, on a une période... un petit peu compliqué, et après donc 84, 85, jusqu'en 92, la crise empire. Bon, c'est Henri Krasucki qui prend le secrétariat général au congrès de 82, et la crise interne de la CGT ne cesse de croître, les adhérents partent par milliers, par dizaines de milliers, et cette réalité-là est cachée aux militants. C'est-à-dire que la CGT continue à faire comme si. On parle de la crise du syndicalisme, elle dit non, la crise c'est les autres, c'est les syndicats réformistes. Nous on n'est pas affectés par la crise, c'est pas vrai. Quand Krasucki part en 82, il est remplacé par Louis Vianney, qui apparaît, tout le monde dit, oula, c'est un conservateur, il est au bureau politique du Parti communiste, c'est un dur, etc. Et en fait, Vianney va un petit peu tromper son monde, c'est-à-dire qu'il va lui faire la vérité sur l'état de la CGT, il va faire la vérité des effectifs. Ça va d'ailleurs résonner dans les chaumières. La prise de conscience de l'état de l'organisation en 92-93 crée des traumatismes. Enfin, les CGTistes se rendent compte qu'ils sont à un point extrêmement critique et qu'au fond, ils abordent la fin du siècle au bord d'un gouffre. On ne sait pas ce que va devenir la CGT à cette époque-là. Le Parti communiste est devenu un parti à l'influence résiduelle, même s'il a encore quelques municipalités. L'Union soviétique s'est effondrée en 91. Ça a été un coup de tonnerre quand même pour beaucoup de gens. Le mur de Berlin est tombé en 89, etc. Donc on a vraiment changé d'époque. Toutes les références historiques qui étaient la matrice de la CGT, le Parti communiste, et puis ce qu'on appelait l'écosystème communiste, les municipalités, les associations, le mouvement des femmes françaises, le mouvement de la paix, etc., toute cette myriade d'organisations qui gravitaient comme un écosystème dans lequel était la CGT. Eh bien, tout cet écosystème a fondu, a disparu. Il a éclaté. Et les solidarités historiques, les pays du socialisme réel, etc., tout ça est passé à la trappe. Ça a été un coup de tonnerre. Et la couche des militants de la CGT qui y croyaient encore a pris un coup de massue derrière le crâne avec cette histoire-là. Et après, on vient leur dire, mais non, vous savez, même la CGT, elle n'est pas ce qu'on croyait qu'elle était. Elle est dans un état de faiblesse effroyable. Et elle était finalement contractée, elle avait 2/3 de ses adhérents dans 4 ou 5 fédérations du secteur public et de la fonction publique, dans la métallurgie, dans la chimie et tout, elle était dans un état catastrophique. Alors, elle n'est pas toute seule, les autres syndicats n'allaient pas beaucoup mieux, mais enfin, il n'en reste pas moins qu'à partir de là, et c'est un peu la dernière phase qui s'ouvre en 92-95, la CGT va tenter de sortir un peu de la situation dans laquelle elle était. Les premiers efforts portés sont des efforts, je l'ai dit, de mise à jour de la réalité, de l'organisation, et le deuxième, ça va être de se désenclaver de la relation au Parti communiste, qui devenait mortifère, parce que la relation était tenable quand vous aviez un grand parti, un grand syndicat, mais quand le syndicat reste encore le plus grand, même s'il était très faible, et que le parti devient un groupuscule, ça ne peut plus marcher. Comme dit l'autre, pour que la courroie de transmission fonctionne, il faut quand même qu'il y ait un moteur. Quand le moteur il est totalement épuisé, il n'entraîne plus rien. Donc, fini là. Alors, courroie de transmission, la CGT n'a jamais vraiment fonctionné comme une courroie de transmission du parti. La courroie de transmission, parfois, elle marchait dans l'autre sens aussi. Donc, c'était plus compliqué que ça. Mais enfin, tout de même, elle vivait dans cet univers-là, et à partir de 92-95, c'est clair que la CGT doit vivre toute seule, doit apprendre à marcher avec ses pieds à elle et se débarrasser de... délaisser, disons, la relation qu'elle avait au Parti communiste. La relation au PC, ça pouvait aller assez loin. C'est-à-dire que les responsables d'union départementale, en général, étaient choisis par la fédération départementale du parti, dans les années 50-60. On l'a vu, d'ailleurs, après le départ de Ségui, il y a eu 65 changements de secrétaire d'UD en 2-3 ans. Donc là, on a vu la mainmise du Parti communiste, c'était pas seulement dans le discours. Elle s'est faite concrètement au niveau des responsables qu'il y avait dans les unions départementales. C'est un peu moins vrai au niveau des fédérations professionnelles, mais enfin... Quand on voulait être dirigeant d'une fédération, il était bon de passer par l'école de cadre du parti. Et donc il y avait, si vous voulez, une imbrication tout de même assez étroite à travers la formation, à travers une espèce de bain culturel commun entre les responsables communistes et ceux de la CGT. Donc tout ça se défait complètement dans les années 90. Et aujourd'hui, le phénomène est arrivé au bout. D'abord, il y a eu la démission symbolique de Vianney du bureau politique, du parti... son successeur, Thibault, ne sera jamais au bureau politique. Il a été au Conseil national, l'ancien comité central, mais lui-même s'en dégagera en 2000 ou 2001, je crois. Donc il y a une véritable coupure. Bon, il y a toujours des responsables de la CGT qui sont communistes. Mais là, de même qu'à FO, il y a des responsables, il y a des gens qui sont socialistes. Mais la relation organique qu'il y avait avant a été totalement coupée. Pour autant, ça n'a pas sauvé, ça n'a pas réglé les problèmes de la CGT d'un coup de baguette magique. On pourrait même dire, sur certains plans, ça a empiré la situation. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de responsables de la CGT dans ces années-là qui avaient été formés à la culture communiste, mais au moins ils avaient été formés. Et que là, on a découvert, la CGT a découvert que la génération spontanée, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a un défaut de culture organisationnelle, politique, de la part de ces militants, qui font qu'il faut qu'elle s'invente à elle-même une culture d'organisation. Pendant très longtemps, elle a été un peu structurée de l'extérieur, et aujourd'hui, il faut qu'elle acquiert par elle-même ses moyens de fonctionnement, et elle est encore là-dedans. Le débat du prochain congrès va porter sur la rénovation des structures de la CGT, le déplacement de ses fédérations, etc. La conception même de ces syndicats, qui sont aujourd'hui des syndicats d'entreprise, mais qu'elle veut asseoir sur des entités plus territoriales. Donc il y a un grand débat qui est lancé. On va voir s'il génère les mêmes résistances qu'à d'autres périodes. Mais là, il y a une vraie discussion. Si elle débouche positivement, on va avoir une restructuration en profondeur de la CGT, bon, qui est passée au bord du gouffre, je l'ai dit, mais qui finalement a à peu près sauvé sa peau. Alors aujourd'hui, elle n'est pas dans un état extraordinaire. Elle n'a pas retrouvé, par exemple, un courant d'adhésion. Il faut dire que là où il y a des emplois, la CGT n'est pas forcément. Elle est, par exemple, dans les nouveaux systèmes industriels qui se créent, la CGT, elle est plutôt dans les boîtes donneurs d'ordre et très peu dans la sous-traitance. Là où il y a les jeunes en particulier, elle est assez peu présente. Bon, elle se redéploie un peu dans le commerce, dans la grande distribution. On l'a vu l'an dernier, un peu dans les restos, dans la restauration rapide, etc. Donc elle investit des nouveaux champs. Mais elle reste encore très lovée quand même dans ses vecteurs traditionnels. Bon, la CGT, c'est encore beaucoup, la SNCF, EDF, la fonction publique territoriale, etc. Donc, dans la métallurgie, même s'il y a un petit redressement du nombre d'adhérents, ils sont quand même très très loin d'avoir retrouvé une puissance. Mais la CGT n'a pas disparu. Si on prend toute la période, son influence a décru en moyenne de 1% par an aux élections de comités d'entreprise. Elle est partie de 60 et quelques pourcents en 46, donc là, elle est maintenant à 22-23. Aux élections prud'homales, on les mesure depuis 1979. Elle faisait encore 42,7 aux élections de 79. Là, elle est descendue à un palier de 36,8 dans les années 80. Elle est descendue à un palier de 33 dans les années 90. Elle est même descendue à 32 au scrutin de 2002. Et là, en 2008, elle est remontée un petit peu. Elle est remontée de 2 points, c'est pas énorme, mais pour la première fois, elle inverse la tendance. C'est surtout ça le problème. Donc aujourd'hui, elle a fait 33,8 aux élections prud'homales. Cela dit, avec un taux d'abstention encore croissant, donc elle a malgré tout perdu 100 000 électeurs entre les deux dates. Mais le problème qu'il y a eu de l'effondrement de la CGT, c'est que personne n'a pris la place. On va en venir maintenant en parlant de force ouvrière, mais la CGT est malgré tout ça restée la première organisation. Alors il y a une dispute entre la CFDT et la CGT pour savoir qui a le plus d'adhérents. C'est relativement secondaire. Électoralement, la CFDT n'est pas passée devant. On l'a cru à une époque, mais là, elle est redescendue. On sait aussi que depuis 2003, elle a même quelques problèmes au niveau de son nombre d'adhérents. Donc aujourd'hui, savoir qui est devant, qui est derrière. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les deux syndicats ont assez peu d'adhérents. Enfin, assez peu d'adhérents pour un syndicalisme de masse. Mais enfin, les syndicats, tout confondu en France, ça fait quand même 2 millions de personnes. Bon, alors ceux qui regardent ça de très haut, je veux bien, mais combien, eux, ils alignent de leur côté. 2 millions de gens, on peut faire des grandes manifs, on a vu, ça compte, quoi, même si c'est encore un mouvement syndical passablement faible. Je vais accélérer. Il est 10h, il est 9h30. Bon, alors je vais dire 2 mots des autres, tout de même, de FO et de la FEN. Enfin, FO, en réalité, a toujours gardé les traces d'une scission qui, pour l'essentiel, a été une scission ratée. Ratée parce qu'elle n'a pas réussi à emporter même les gens sur lesquels elle comptait le plus. J'ai parlé de ceux du livre, mais d'autres aussi qui sont restés à la CGT. Et surtout, elle a perdu toutes les fédérations industrielles. Elle a dû repartir de zéro dans le bâtiment, dans la métallurgie, dans la chimie, dans la construction navale, etc. Il n'y a qu'un secteur où elle a gardé des forces de tout temps, c'est le secteur aéronautique, armement. Chez Dassault, à l'aérospatiale, chez EADS aujourd'hui, à Airbus, chez Eurocopter, etc. EFO est le syndicat dominant dans cette filière-là. Je ne saurais pas trop l'expliquer d'ailleurs, mais il y a sûrement des gens qui pourraient le faire ici. Globalement, à part ça, les forces de FO, c'est quand même la fonction publique et le secteur public. Les fonctionnaires territoriaux, enfin avant qu'ils soient les agents de la territoriale, dans la santé aussi, à une époque, FO a été très, très influente dans ces périodes-là. C'est le monde des bureaux, FO. Même dans l'industrie, lorsque FO a eu des organisations industrielles, c'était plutôt les cols gris, ceux des bureaux. Ça, c'est la dominante un peu sociologique. Et le monde de FO, où on parle pourtant beaucoup de la classe ouvrière, reste quand même un univers marqué par la culture du monde des employés et des fonctionnaires. Alors, on peut distinguer trois grandes périodes, là, vous voyez, ça ira plus vite, qui correspondent en gros, d'ailleurs, aux trois secrétaires généraux. Enfin, je compte pas Mailly, j'en parlerai à la fin, parce que lui s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, ce qui n'était pas le cas des précédents. Donc, la première période, elle est marquée, c'est Robert Bottereau, un socialiste, d'ailleurs, qui est le secrétaire général de FO, la période 48, donc la Constitution, jusqu'en 63, où FO, là, développe une idéologie qu'on pourrait dire social-démocrate. Elle garde le programme des ex-confédérés de la CGT. En gros, elle a deux points. Elle a un programme de réforme de structure, elle a une politique fiscale, etc., une vision à elle, réformiste, social-démocrate. Très, très lié d'ailleurs aux syndicats sociodémocrates européens, auxquels elle ajoute évidemment les conventions collectives. Elle croit à la nécessité d'une régulation sociale par la négociation collective. Bon, la CGT à l'époque, on parle pas beaucoup, c'est pas franchement son problème, la négociation collective. Donc la FO s'identifie vraiment à travers cette revendication, et FO va être au cœur d'ailleurs de la loi de 1950 qui instaure les conventions collectives. FO, à cette époque, c'est l'humanité tout entière, aurait dit Léon Blum. Enfin, pas tout entière, tous ceux qui refusent la mainmise communiste sur le mouvement syndical. Ça fait du monde. Enfin, ça fait un large spectre politique qui va de la droite à la gauche, voire à l'extrême gauche. À l'extrême gauche, parce que dès le début, on va avoir la Fédération anarchiste, par exemple, il y a Maurice Joyeux, qui est un grand personnage de la Fédération anarchiste, l'emblème intervient dans les congrès de FO, il est comme un poisson dans l'eau dans Force ouvrière, il y a des tendances trotskistes, il y a des tendances socialistes un peu de toute nature, et puis il y a des gens de droite aussi, les gaullistes au début, le RPF, qui a été créé en 1950, je crois, ou 49 ou 50, avec ses noyaux ouvriers, l'Alliance ouvrière et populaire du RPF, des ouvriers gaullistes, ça existait. Et il y en avait beaucoup à FO. Il y a une tradition, d'ailleurs, gaulliste au sein de Force ouvrière, qui existe toujours. Alors, il y a même eu des gens un peu plus à droite, parce que dans les années 50, ils ont récupéré des anciens de Vichy, dont la réadhésion syndicale avait été refusée en 45-46, au moment de la commission d'épuration syndicale, mais qui, après, vont revenir. Donc, il y a à peu près tout le monde, sauf les communistes, donc, et sauf les chrétiens. Parce que la CFTC de l'époque, il n'y a pas vraiment d'atome crochu entre FO et les syndicats chrétiens pendant toute cette période. FO est un syndicat inscrit dans la tradition laïque, on peut même dire anticlérical. Sa référence, c'est le socialisme utopique français, c'est plus Proudhon que Pierre Leroux. C'est-à-dire Proudhon, c'est l'anticléricalisme hissé à la hauteur d'une religion, si j'ose dire. Donc il y a un tempérament extrêmement laïque. On pourrait dire d'intégrisme laïque, sans y voir de nuance péjorative, d'ailleurs, parce que les batailles laïques dans les années 50, ça pèse lourd, les lois contre la laïcité, comment s'appelaient les fameuses lois, devait y avoir des gens qui s'en souviennent, le nom, je me souviens plus, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, il y a eu une bataille aussi pour la laïcité dans ces années-là, et FO était évidemment très, très en pointe. Donc, il n'y a pas les chrétiens, et il y aura toujours des relations extrêmement difficiles avec la CFTC, de la part de FO, même dans les périodes, d'ailleurs, de haute tension avec la CGT communiste. On aurait pu croire que ça les rapproche, mais pas vraiment. Donc, alors, on a dit beaucoup de choses sur cette période, vous savez, l'argent de la CIA qui a aidé FO à se constituer, bon, ça c'est vrai, c'est attesté. Bon, c'est passé par le canal des syndicats américains, mais il y a eu de l'argent des services américains. Bon, est-ce que ça a influencé l'activité et l'idéologie de FO ? Ça, c'est pas démontré. on parle aussi de l'argent de l'UIMM. On en a parlé l'année dernière avec le dévoilement de la caisse noire de l'UIMM. Bon, là, il y a moins de preuves, juste des présomptions, hein, que dans la métallurgie ou... Bon, mais enfin, il faut se remettre aussi dans l'esprit de l'époque. On a monté les conventions collectives en 1950, fallait bien des gens pour les négocier. Les patrons ont toujours été assez hostiles aux conventions collectives. On leur a imposé ça en 1950, après-guerre, à un moment où ils rasaient plutôt les murs, parce que, vu leur attitude pendant la période de Vichy, ils ne tenaient pas vraiment le haut du pavé en 1946. Donc là, il y a eu une fenêtre d'opportunité, on a installé les conventions collectives. Mais il fallait quand même des gens pour les négocier. Et la CGT, ce n'était pas son problème. Donc, bon, dans la métallurgie, ils ont fini par s'y résoudre. Et du coup, c'est vrai que le patronat n'a pas vu d'un mauvais œil, prenons-le comme ça, hein, l'émergence d'une fédération FO de la métallurgie, qui a toujours eu beaucoup de mal à exister, parce qu'en plus, il faut dire que les communistes ne leur faisaient pas de cadeaux. Hein. Ils avaient du mal. La politique de Frachon, à l'époque, c'était de dire une entreprise, un syndicat. Alors vous, quand vous essayez de monter le vôtre, c'était pas toujours très commode. Hein. Donc FO a été aidé, oui, bien sûr. Bon, enfin, tout ça se relève plus de l'anecdote qu'autre chose. Il représentait quand même un courant réformiste, historique, bien. Donc ça, c'est une première période d'émergence où FO a du mal à s'extraire hein, des conditions de la scission. Après 63, c'est Bergeron, André Bergeron, qui vient un des rares typographes qui a quitté la Fédération du Livre pour rejoindre FO, qui devient le secrétaire général. Et là, on peut dire que c'est une période nouvelle parce que FO délaisse son programme réformiste. Et elle devient le syndicat du contrat collectif. Et toute la rhétorique de FO, c'est les conventions collectives. Ils prennent acte, d'ailleurs, du changement de régime, qu'avec le gaullisme, c'est fini, le parlementarisme sur lequel ils jouaient un peu. On est maintenant dans un système qui est centralisé autour de l'exécutif. Et FO joue la carte de l'interlocuteur privilégié du pouvoir. Et c'est l'époque où on voit Bergeron sur le perron de Matignon, annonçant aux 20h de la radio-télévision que les bonnes nouvelles qui nous ont été confiées par le Premier ministre du moment, l'augmentation des allocations familiales, l'arrivée de telle ou telle prestation, etc., c'est toujours Bergeron qui l'annonce. Et du coup, il gagne cette image de FO, le réformisme tranquille, etc., qui est pragmatique, qui se moque volontiers des syndicats gréviculteurs, comme il dit, animés par des idées politiques, parce que FO se recommande évidemment d'un certain apolitisme qu'il croit trouver dans la charte d'Amiens. On parle beaucoup de la charte d'Amiens, qui instaure une coupure entre l'action partisane, l'action des partis, et l'action du syndicalisme. Et évidemment, FO à cette époque surfe à la fois sur la liaison entre le PC et la CGT, qu'elle montre du doigt, et aussi sur la volonté de la CFDT de devenir ce qu'elle va appeler un parti syndicat, c'est-à-dire un syndicat qui prétend avoir un programme pour toute la CGT. Donc c'est une période où on voit un déplacement des représentations de FO, bon, qui connaît à cette époque d'ailleurs un certain développement. On sait peu de choses sur les effectifs de FO, mais ceux qui ont essayé de rétablir des calculs montrent que c'est une période de croissance relative de l'influence de Force ouvrière. La troisième période, c'est celle de 89, quand Marc Blondel arrive aux affaires à FO. Alors on a toujours tendance à dire, évidemment, il y a une rupture qui est liée à la personnalité différente de Blondel, qui n'est pas du tout le père tranquille qu'était Bergeron, etc. Bon, enfin, ça, c'est un peu la petite histoire, parce que, en réalité, dès les dernières années de Bergeron, il campe assez bien le changement de période. C'est décisif, 89, quand arrive Blondel. C'est décisif sur deux plans. Le premier, c'est la fin du grain à moudre. Parce que le grain à moudre, ça voulait dire quoi? Vous savez, c'est une formule qu'on attribue à Bergeron, qui est de dire... Il faut du grain à moudre pour la négociation collective. Le grain à moudre, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fruits de la croissance, qui passent par la négociation. Donc la répartition, les syndicats ont à gagner dans la négociation collective parce qu'il y a du grain à moudre, c'est-à-dire des points de croissance à redistribuer. Sauf qu'en 89, il n'y a plus rien à redistribuer. Et dès 85, Bergeron le dit, le grain à moudre s'épuise. On est dans une période où les contrats collectifs, c'est des échanges, donnant-donnant. Avec le patronat, c'est plus la répartition des fruits de la croissance. Donc FO perçoit qu'elle aura du mal à se légitimer à travers les fruits de la négociation collective. Et le durcissement du discours de FO en 89, c'est ça. Avant de dire c'est Blondel, c'est d'abord ça. Le constat que c'est plus avant le partenaire privilégié du gouvernement. Ça, c'est fini. Le gouvernement, de toute façon, il n'a que des mauvaises nouvelles à annoncer. Donc c'est pas la peine de hanter le perron de Matignon et le 20h de TF1. Il n'y a rien à annoncer. Donc il faut changer de logique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, 89, c'est la chute du mur. C'est la fin programmée de la CGT pour FO. pense que la CGT va disparaître avec la fin du communisme. Et donc le discours de Blondel est très clair. Il le dit de manière extrêmement politique, d'ailleurs. Il dit « la CGT va disparaître ». Il faut que nous nous calions sur cette perspective. Il faut que nous soyons aptes à rassembler tous ceux qui vont quitter la CGT. Ramener le troupeau au bercail. Le bercail, c'est la CGT, l'histoire de la CGT, c'est nous. C'est pas les communistes qui l'ont embarqué dans une impasse. La CGT, c'est nous qui la continuons. Et donc, il faut se placer en position et donc radicaliser un peu le discours. Oui, il y a deux raisons pour lesquelles Blondel choisit une nouvelle stratégie. En 91, il va appeler à la grève générale, tout seul. Ça ne va pas produire de miracle, hein, mais ça montrait déjà un changement de discours. En 95 aussi. Il va, d'ailleurs, depuis, là, ils appellent toujours à la grève générale. Alors, ça ne crée pas les moyens de la faire. Mais bon, on voit bien quand même que dans le discours de FO, on se dit que Bergeron doit se retourner dans sa tombe. Il est toujours vivant. Hein, mais bon. Mais non, Bergeron accompagne cette ligne, contrairement à... Il y a des gens qui sont allés chercher, essayer de faire parler Bergeron contre son successeur. Alors, il ne s'aime pas bien, hein, mais Bergeron comprend cette ligne-là. Je l'ai entendu dans quelques colloques, il se distinguait pas du tout de la ligne de FO. Mais en même temps, bon, on peut dire que ce rebond souhaité... Hein, moi, j'ai... comme d'autres, enfin au congrès de 95, par exemple, qui se tenait dans la foulée du mouvement de 96, qui se tenait dans la foulée du mouvement de novembre-décembre. Là, Blondel est très clair sur la démarche. Il exhorte FO à se bouger, à s'ouvrir, à faire en sorte, à se dynamiser, notamment dans le privé, avec toujours cette idée, la CGT perd pied, on va retrouver notre place, la première. C'est d'ailleurs une banderole qui était au congrès de 1973. Pourquoi ? Parce que pendant cette période, FO a vécu sur l'idée... qu'au fond allait se reproduire le schéma de l'entre-deux-guerres. La CGTU, qui avait plus de troupes que la CGT en 1922, s'est épuisée dans des combats, répétitions, etc., qui ont épuisé une génération de militants, et la CGTU est devenue un groupuscule. Bon. Et quand, au moment de la fusion de 35, la CGT était plus forte. Et en fait, c'est ça qu'ils attendaient. La CGT va s'effondrer, et nous retrouverons notre place, la première. Et en fait, ils ne l'ont jamais retrouvée. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la CGT, quelle que soit la raideur de ses positions, les positions sectaires qu'elle a pu tenir à un moment, son allégeance à l'URSS, etc., en même temps, elle a connu ce phénomène d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'elle gérait. Et elle avait cette double culture, d'ailleurs, qui a posé des problèmes à certains moments. Un problème de cohérence entre les discours et les pratiques. Des fois, ça pose problème. Mais du coup, elle n'a pas disparu parce qu'elle avait des points d'accroche que n'avait pas la CGTU dans l'entre-deux-guerres. Elle s'est institutionnalisée, peut-être malgré elle, hein, mais enfin, à la SNCF ou à l'AIDF, c'est une puissance installée, quoi. C'est une institution. On l'a d'ailleurs pris comme l'idéal type du syndicat institution, la CGT-DDF. Elle est vraiment au cœur de l'entreprise. Hein. Donc, bon, bah, pour réduire l'influence de la CGT, même si l'Union soviétique s'est cassée la gueule, c'est pas... la CGT, elle est restée puissante à EDF et à quelques autres endroits. Donc on n'a pas eu ce phénomène-là, et du coup, bah, il ne s'est pas passé ça. Et puis au fond, pour reprendre l'expression de Steinbeck, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. C'est-à-dire que, bon, s'adresser à un congrès de FO en leur disant « retroussez les manches, allez aux portes des usines », c'est plaider pour quelques années, hein, parce que ce qui a fait la force de la CGT par rapport à FO, c'est le dévouement de ses militants et des couches militantes qui étaient autrement armées, hein, politiquement, et qui avaient une envie d'en découdre avec le capitalisme, etc. Bon, c'était des troupes quand même un peu plus dynamiques que ce qu'un observateur méchant avait appelé les légions bedonnantes de force ouvrière, hein, qu'on trouvait dans les congrès. Donc cet effort on voit bien qu'à cette époque-là, FO perçoit l'enjeu, hein, de trouver une dynamique nouvelle. Mais bon, un enjeu perçu n'est pas un enjeu surmonté. Alors, on ne peut pas faire un cheval de course. On peut au moins, ajoute Steinbeck, en faire un âne de course. Alors, peut-être qu'il y a quand même des secteurs de FO qui ont bougé. Mais globalement, une vingtaine d'années maintenant, après cette stratégie de rebond, hein, qu'avait tenté d'impulser Marc Blondel, le résultat n'est pas terrible. On a plutôt, au contraire, sur la période... un affaiblissement assez considérable de FO. Après être resté stable au prud'homal entre 87 et 97, autour de 20%, FO a connu un premier recul quand même assez significatif en 2002. Elle tombe à 18,3 et là, en décembre, elle se retrouve à 15,9. Donc il y a un affaiblissement de l'audience de FO tout à fait significatif, qu'on retrouve un peu aux élections de comité d'entreprise, mais qu'on trouve en tout cas où elle ne représente pas beaucoup, entre 11 et 12%. Vous voyez que dans le privé, elle n'a jamais réussi véritablement à faire son trou. D'ailleurs, certains endroits, elle est menacée par les nouveaux critères de représentativité. Le seuil de 10%, ça ne sera pas facile partout. Donc d'ailleurs, elle a été très hostile à l'adoption de ce nouveau système. Mais surtout, dans les secteurs où elle était forte, dans la fonction publique d'État, dans la santé, dans la territoriale, FO a pratiquement dévissé depuis 15 ans. Elle a perdu des positions, elle a perdu beaucoup de points de représentativité. Et elle est aujourd'hui dans un avenir incertain, comme on dit certains observateurs. Alors évidemment, on peut se dire, bah oui, mais aujourd'hui, maintenant, la cause initiale de la scission est morte. Le communisme, c'est plus ça l'obstacle. Alors pourquoi on ne peut pas envisager une fusion à nouveau de la CGT et de Force ouvrière? Et bon, c'est évidemment une perspective vue de loin comme ça. Mais enfin, on voit que la scission, elle s'est enracinée dans des appareils, dans des bureaucraties. Enfin, sans nuance trop péjorative, mais il y a des appareils quand même installés, il y a des intérêts installés, et c'est une perspective qui est très récusée à FO quand on en parle. Enfin, c'est d'ailleurs bizarre, parce que très souvent, moi j'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps avec une dirigeante pour autre chose, mais on s'amusait de ça, et elle me dit « Mais non, nous, jamais on rentrera à la CGT ». Je dis « Mais c'est toi qui en parles, moi j'ai rien dit ». On sent qu'il y a quand même... Il y a quand même un spectre entre l'histoire. Et en ce moment, dans les couloirs de l'avenue du Maine, il y a quand même ce spectre du retour possible à la CGT. Alors ça me fait penser à cet évêque qui se voyait questionné par un prélat qui lui demandait « Mais Monseigneur, verrons-nous un jour la fin du célibat des prêtres ?» Et l'évêque lui répondant « Nous sûrement pas, mais nos enfants, oui. » Je pense qu'aujourd'hui, il est assez difficile... Il est assez difficile d'envisager une fusion comme ça entre la CGT et FO, mais enfin, après tout, les choses vont très vite, et qui sait. Mais c'est là qu'on voit quand même que ces histoires, même s'il y a eu séparation, j'ai assisté hier soir à un débat comme ça, il y avait trois dirigeants de la CGT, de la CFDT, de FO, enfin, il y avait le Duigou, Valadon, Bonan, et entre les interventions de la CGT et de Force ouvrière, il n'y avait pas, d'ailleurs, ils se référaient l'un à l'autre assez fréquemment. Il n'y a pas un gouffre. Il n'y a pas un gouffre de conception aujourd'hui. Donc je pense que s'il y a des logiques de recomposition, aujourd'hui on voit Force ouvrière chercher des alliances électorales avec la CFTC. Vous vous dites, tiens, c'est quoi la logique? La logique, c'est la survie à court terme. Donc il y a des logiques de survie. Mais les logiques de survie, ce n'est pas des logiques de recomposition. Les logiques de recomposition, c'est quand la question se reposera des relations entre FO et la CGT. Alors, est-ce que j'ai le temps de parler de la FEN? Très vite. Donc j'ai dit tout à l'heure, la FEN, fédération, très vite, parce que finalement, c'est qu'un petit morceau du champ syndical, c'est pas une confédération, la FEN. Elle va devenir importante, parce qu'elle va croître avec le secteur éducatif, qui, comme vous le savez, occupe une place énorme, c'est plus d'un million de personnes, le secteur éducatif aujourd'hui. Et la FEN, elle faisait 200 000 adhérents à la fin des années 50, et elle en fera le double 10 ans plus tard. Donc elle... Et alors cette particularité, c'est pour ça que c'est intéressant de s'arrêter dessus, c'est que la FEN sort du jeu des confédérations pour maintenir l'unité entre les différentes composantes. Donc dedans, vous avez des socialistes, vous avez des communistes, vous avez des trotskistes, vous avez une tendance d'ailleurs syndicaliste révolutionnaire aussi, l'école émancipée, qui est une vieille tradition syndicale, qui est syndicaliste révolutionnaire, mais aussi dans laquelle se reconnaissaient les nouvelles écoles pédagogiques. Je pense aux écoles Freinet, par exemple, qui étaient des tenants de l'école émancipée. Donc c'est un courant qui a une histoire assez longue, qui existe toujours, même s'il a connu une scission, qui était une composante, la troisième d'ailleurs, de la FEN. Et alors évidemment, il y avait des conflits dans la FEN entre ces diverses approches-là, mais elle recoupait, alors ça s'est tendu un peu à l'époque où il y a une tendance qui s'est organisée qui s'appelait Unité Action, qui était la tendance communiste. Et il y avait aussi du coup la tendance socialiste qui avait pris le nom d'Unité, Indépendance et Démocratie. Il y avait une tendance trotskiste qui s'appelait le Front Unique Ouvrier, il y avait l'école émancipée, enfin bref, chacun avait son champ, il y avait un droit de tendance qui avait été instauré comme condition du maintien de l'unité. Donc chacun, alors, il y avait des conflits entre les tendances, mais on se rendait compte aussi qu'il y avait des conflits entre les mondes professionnels qui constituent l'éducation. C'est que le cœur de la FEN, historiquement, c'est le Syndicat National des Instituteurs. C'est eux qui étaient les inspirateurs, puis avec la longue histoire des hussards noirs de la République, donc c'était vraiment le cœur laïque, qui plus est, de la FEN. Et progressivement, ces équilibres internes se modifient avec l'évolution de la démographie enseignante, avec la montée du secondaire, la montée des profs du secondaire, qui déstabilise un petit peu l'identité de la FEN, qui est assurée par les instituteurs. Et ça va s'aggraver avec, en 66, lorsque la tendance Unité Action, communiste, va prendre la tête du SNES, du syndicat de l'enseignement secondaire. Et là, alors évidemment, on va rentrer dans des zones de turbulence, puis Unité Action va progresser, va s'emparer du SNESUP après 68. Le SNESUP en 68, c'est Jesmar, hein, c'est les gauchistes, comme on dit. Et bon, après la retombée du mouvement, c'est la tendance Unité Action qui va prendre les rênes du SNESUP. Donc, on voit monter une certaine influence à l'intérieur de la FEN, l'influence communiste, pour faire vite. Et donc, on arrive à la fin de cette période, des années 80. La FEN a connu pas mal d'échecs. Le premier, c'était un des mythes fondateurs de la FEN, c'est ce qu'on appelait le SPULEN, le service public unifié laïque de l'éducation nationale. C'était quoi? C'était cette grande idée de revenir sur les lois d'accompagnement de l'école privée et d'unifier dans un grand service public de l'éducation nationale tous ceux qui contribuent à l'éducation nationale, et donc le secteur privé, notamment d'abord le secteur privé conventionné, puis éventuellement, après il y avait des questions de liberté confessionnelle, mais enfin, au moins en tout cas, tout le service, tout le secteur éducatif sous convention avec l'État. Ça a été un échec, la loi Savary, bon, c'est un engagement de Mitterrand, mais la loi Savary a provoqué des défilés dans Paris, depuis Versailles jusqu'à Paris, enfin l'école privée... droit devant contre la loi Savary, etc. Bon, le pouvoir a dû canner et du coup remiser pour bien longtemps le projet d'unification du système éducatif. La FEN l'a évidemment très mal vécu. Elle a relancé à la fin des années 80 un projet pour se sortir des tensions internes de ce qu'elle appelait de recomposition syndicale, essayer une alliance avec FO et la CFDT pour construire un grand bloc réformiste contre l'influence de la CGT. Ça n'a pas marché parce qu'FO n'a pas voulu. Donc au début des années 90, on se dit, mais après quoi court la FEN? Et elle courait après quelque chose de très simple qui commençait à lui, tel un alien, à lui dévorer le corps, qui était la montée du secondaire dans les effectifs d'enseignants. Parce que mathématiquement, ça allait faire perdre le contrôle de la fédération aux tenants du SNI, aux tenants des instituteurs, c'est-à-dire aux socialistes, puisque la majorité de la FEN à cette époque est largement, ils sont même fabusiens pour être précis, en 89-90. Donc ils voient monter avec terreur le nombre des enseignants du secondaire, plus alliés avec le supérieur, et il y a une crainte de perte de contrôle de la fédération, et du coup pour pallier à ce risque, la direction de la FEN va décider d'exclure le SNES, ce qu'elle va faire en 1992, exclure le SNES, et puis pour faire bonne mesure, elle va exclure avec le SNEP, qui est le syndicat national des enseignants d'éducation physique, qui était aussi tenu par Unité Action. Alors, la logique était simple, c'est de dire, bon, on est en 92, l'Union soviétique est morte, un syndicat conduit par des communistes, c'est une curiosité saugrenue. Donc, mettons ces gens dehors, ils vont mourir, comme les autres, et puis, à cette époque-là, le syndicat des instituteurs va s'élargir, s'appelle le syndicat des enseignants, et il envisage de syndiquer tout le monde, le primaire, secondaire... et le supérieur dans la même organisation. Ah, évidemment, c'est un pari curieux, parce que on sait pas, les gens qui étaient syndiqués au SNES, ils n'étaient pas syndiqués parce que la direction du SNES était communiste. Hein. Ils étaient syndiqués au SNES parce que le SNES défendait, de manière assez ardente d'ailleurs, les intérêts corporatifs de la profession. Et du coup, quand le SNES s'est trouvé exclu, bah, les adhérents, ils ont suivi le SNES, parce qu'ils étaient au SNES avant d'être à la FEN. Donc, tout le monde a suivi. Et au SNESUP, pareil, enfin, et du coup, alors les exclus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait comme on fait dans ces circonstances-là, ils se sont regroupés et ils ont créé une autre organisation unitaire, comme toujours, hein, qui s'est appelée la Fédération syndicale unitaire. Pas très compliqué à trouver comme nom, Fédération syndicale, et on rajoute unitaire parce que comme on a été exclu, on veut marquer un désaccord avec les pratiques d'exclusion. Et la FSU, qui est une création qui n'a pas été choisie, ils se sont retrouvés dehors, ils se sont regroupés. Elle a vu venir à elle des gens qui sont partis de la FEN, qui n'avaient pas bien compris l'intérêt de la manipulation, et donc ils sont venus renforcer la FSU, qui, en deux élections successives, a largement distancé la FEN dans tout le monde éducatif. La FEN a gardé quelques forces parmi les administratifs, les intendants, les assistantes sociales, etc., les proviseurs, mais elle a perdu les enseignants. Elle a perdu les enseignants. Du coup... Alors, d'abord, c'est assez extraordinaire. On s'ennuie jamais quand on est observateur du mouvement syndical en France. D'abord, c'est la seule scission qui a élargi le nombre de syndiqués. D'habitude, quand il y a une scission, il y a trois camps. Il y a ceux qui restent dans la première organisation, il y a ceux qui vont à la seconde, et il y a ceux qui rentrent chez eux. Toute scission se traduit par une déperdition. Et bien là, non. Là, il y a eu plus d'adhérents FEN plus FSU qu'il n'y en avait avant dans la FEN. On a eu le sentiment que cette scission avait libéré des forces qui se sont engagées dans la FSU, qui apparaissait comme une rénovation syndicale par rapport à la vieille FEN, comme on l'appelait. Donc ça, c'est la première curiosité. La deuxième, c'est que la FEN s'est constituée en pleine guerre froide avec le projet de maintenir entre elles toutes les composantes idéologiques du mouvement syndical des enseignants. Et qu'en 1991, l'Union soviétique disparaît, le Parti communiste français est pas loin de faire de même, et c'est à ce moment-là que la FEN éclate selon les clivages de la guerre froide. Elle exclut ses syndicats sous prétexte qu'ils sont dirigés par des communistes, qui d'ailleurs à l'époque, il faut voir les communistes, du SNES, il y en a qui le sont sûrement, mais enfin c'est pas franchement la question du communisme qu'on avait dans les années 50. Hein. Donc là, c'est assez amusant de voir un syndicat qui reste accolé pendant la guerre froide et qui, une fois celle-ci finie, pof, il explose. Alors, résultat des courses quand même, c'est que la FEN se trouvait bien dépourvue quand la bise électorale fut venue, et elle s'est dit comment on va faire maintenant, parce qu'elle avait réussi à obtenir des gouvernements socialistes la reconnaissance de sa représentativité au niveau fonction publique. Mais là, elle était bien en passe de la perdre, parce qu'elle était devenue passablement étriquée. Alors, ils ont improvisé un truc, ils ont ramassé au passage un petit peu tout ce qu'ils ont pu trouver comme syndicats autonomes qui voulaient bien le faire, et ils ont ramassé ça dans une union nationale des syndicats autonomes. En 93, donc, ou 94, je ne sais plus la date de formation. À l'époque, je dois dire, on n'était pas très nombreux à mettre 3 sous sur l'avenir de ce regroupement qui paraissait un peu improvisé, épars, et parfois le mariage de la carpe et du lapin. Parce que la FED, c'est quand même des socialistes, ils ont été ramassés la FGAF. Un certain nombre de syndicats qui étaient, comme eux, issus de la CGT, mais qui étaient partis au moment du Big Bang. Donc là, je pense à la FGA, je pense à la Fédération des syndicats de police, qui a éclaté entre-temps, mais les syndicats qui l'a constituée ont rejoint l'UNSA à cette époque-là. Ils appartenaient aussi à la CGT en 1945, ils l'avaient quittée. Donc, d'une certaine manière, il y avait quand même une recomposition du pôle autonome, d'un pôle autonome. À travers l'UNSA. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs probablement que ce truc-là n'est pas mort. C'était pas entièrement la carpe et le lapin. Ces gens-là avaient quand même une tranche d'histoire commune, bon, même si elle était lointaine. Ça s'est pas fait sans crise. Au départ, d'ailleurs, l'UNSA n'envisageait pas du tout de devenir une confédération de plus, pour la bonne raison qu'elle n'était implantée que dans la fonction publique. Toutes les forces autonomes qu'elle a ramassées pour se constituer, c'était des fonctionnaires. Ce qui a changé, c'est en 96, où il y a un petit bataillon, modeste mais symboliquement important, qui est venu de FO, rejoint de l'UNSA, dirigé par Jacques Méret, qui était secrétaire de l'Union départementale de Paris, de l'UNSA. Et il est venu, lui, avec un savoir-faire du privé. Et donc, il a apporté des choses à l'UNSA, même peu nombreux, les gens de FO ont apporté à l'UNSA, qui du coup a décidé de s'élargir, a tenté sa chance aux élections prud'homales en 97. C'était un coup pour voir, elle a fait 0,7%. Bon, elle n'avait pas beaucoup de listes non plus. Par contre, 5 ans après, elle a représenté des listes, et là, à la surprise générale, elle a fait 5% des élections. 5%, quand on a peu d'implantations, c'est assez étonnant. Ça explique aussi, d'une certaine manière, le recul de FO à la même époque, parce qu'il est manifeste qu'il y a des électeurs de FO qui se sont portés sur l'UNSA à cette période. Et au fond, c'est pas totalement aberrant, parce que si on réfléchit bien, la matrice est quand même commune. Hein, c'est les gens de 48 qui sont partis les uns à FO, les autres à la FEN. Mais c'est issu du même courant confédéré de l'entre-deux-guerres. Donc on a bien là une racine historique qui fait que ça a un petit peu compliqué. Alors, si on fait un bilan d'ensemble de cette fragmentation, vous voyez qu'à partir d'un tronc commun, la CGT, réunifiée pendant la guerre, porteuse d'espérance à la libération, elle a connu des fragmentations successives. D'abord une nouvelle confédération, directement issue de son sein, puis une autre, finalement, par des voies détournées, qui, après 30 ans d'errance autonome, finit par se regrouper dans un nouvel ensemble qui s'appelle l'UNSA et qui a l'air à peu près consolidé aujourd'hui. Et voilà pourquoi, non pas votre fille est muette, parce que le syndicalisme français parle, mais il parle à plusieurs voix, et en tout cas, on a là un mouvement d'émiettement assez significatif dans cette frange du mouvement syndical. On verra la prochaine fois que le syndicalisme d'origine chrétienne a lui aussi sécrété des petits en route, et que lui aussi a connu un processus de fragmentation dont on parlera la prochaine fois. J'ai été un petit peu trop long, mais bon, vous n'êtes pas trop...